Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait le match sur RTL, 90 minutes sans temps mort, un peu comme les matchs de cette Ligue 1 qui nous enchante depuis le début de la saison. J'avoue, je pensais pas prononcer cette phrase un jour, mais bon, après tout, je pensais pas non plus divorcer un jour, et puis j'en suis à deux. Oui, notre championnat est excitant, c'est peut-être pour ça au final que Lionel Messi a voulu venir y jouer, ce qu'il a toujours pas fait puisqu'il était absent hier à Brest lors de la victoire 4-2 du PSG. Au menu copieux ce soir, Mbappé au PSG ou pas, ben, il reste une semaine avant la fin du mercato, on verra ça. L'OL en crise, le LOSC pas au mieux, Monaco qui joue actuellement face à Lens et qui est mené 1-0 en danger, l'OM sur courant alternatif, nos fameux tirs au but, hein, une question d'actualité, le plus rapide à dégainer au coup de sifflet répond, et Didier Deschamps de retour après le fiasco de l'Euro avec jeudi l'annonce de la liste des Bleus pour les matchs qualificatifs à la Coupe du Monde au Qatar, mais avec qui dedans? Voilà autant de sujets que nous aborderons d'ici 20h avec mes camarades du soir. Oui, moi aussi comme Dédé, j'ai fait ma liste. Mais alors ils sont que 4, pas 26. Désolé, un studio fait la taille des toilettes de Clairefontaine. Tout d'abord, celui qui joue à domicile, ce qui n'est pas forcément un avantage en ce début de saison de Ligue 1. Seulement 5 victoires à la maison sur 21 matchs joués. Le chef de la rédac foot à RTL, Philippe Sanfourche, bonsoir.
Bonsoir Florian.
Ça
bonsoir
va Philippe? Vous avez déjà vu le Messi deux fois, vous, hein, semaine dernière, conférence de presse. Alors ça fait quoi?
Ça permet de rentrer pleinement dans sa nouvelle saison.
Ah,
tout de suite, de voir qu'il y aura du travail.
Bon, on verra ça. Avec lui comme invité, on est forcément bien barré puisque c'est son nom, Xavier Barret. Bonsoir.
Salut, bonsoir.
Oui, bon, écoutez, on fait des petites présentations.
Oui.
Il aurait pu être champion du monde en 2018, il aurait pu être champion d'Europe en 2021. Il n'est ni l'un ni l'autre, mais il a pas trop le seum, enfin, je pense. Le Belge dont refait le match, Stéphane Powels. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, caramba, encore raté.
Ça va bien?
Ah oui, vous avez vu des beaux matchs de foot, vous.
Oui, oui.
Vous êtes ravis.
Je vous rassure, il vous reste le plus important. Les Belges, toujours numéro 1 au classement FIFA, Stéphane. Bravo.
Coca-Cola, classement Coca-Cola.
Et enfin, celui qui a la même taille que Messi, mais pas les mêmes revenus, ni les mêmes tatouages. Enfin, pas à ma connaissance, vu qu'il m'a jamais montré ni son avis d'imposition, ni son corps nu. Sébastien Tarago, de la chaîne L'Équipe. Bonsoir, ça va Sébastien?
Ouais, ça va. J'ai plein de choses qui me viennent en réponse à cette introduction, mais finalement, je vais commencer doucement.
Il y a quelques gestes similaires au poste d'avant-centre pour ceux qui ont eu la chance de le voir.
La poulga de RTL. Nous ensemble jusqu'à 20h, vous êtes bien sur RTL et nous aussi.
RTL, on refait le match.
En fil rouge, on suivra évidemment la cinquième journée de Ligue 2 hein, qui a débuté à 19h, qui va débuter à 19h. Je sais que Sébastien n'en manque pas une miette. Il y avait un match à 15h, Sébastien.
Ça n'arrêtera jamais cette histoire.
Non, c'est Christian Olivier m'a dit, c'est vous la Ligue 2.
Le Clermont Foot n'est plus, enfin le Clermont Foot, voyez, on l'appelle même plus comme ça, n'est plus un Ligue 2.
C'est bien, oui.
Donc la Ligue 2 m'intéresse moins.
D'accord. Bon, en tout cas, cet après-midi, donc il y avait Dijon-Toulouse, 4-2 pour Toulouse qui a pris la tête provisoire du championnat. On suivra tout à l'heure le déplacement de Nîmes à Dunkerque et de Sochaux à Amiens. Mais on va commencer l'émission avec notre Ligue 1, hein, 26 buts lors de la première journée, 34 lors de la deuxième, 6 hier soir lors de Brest-PSG. Bah, notre Ligue 1, méchamment surnommée à l'étranger par certains la Farmers League, eh ben, c'est l'amour et dans le pré. Alors, ce sera notre premier débat du soir, messieurs. La Ligue 1 est-elle le championnat le plus attrayant du moment? A tout de suite pour en faire le match sur RTL.
On en parle.
Tefal organise des opérations de recyclage pour fabriquer de nouveaux produits éco-conçus en aluminium 100% recyclé. On en parle tout à l'heure plus en détail.
Papillomavirus, c'est beau, non? Ça sonne comme coquelicot, myrtille ou mésange. Pourtant, les infections à papillomavirus peuvent être responsables chaque année d'environ 6300 cancers. Vivre avec une infection liée à un papillomavirus à haut risque cancérigène, c'est prendre le risque qu'il évolue en cancer à plus ou moins longue échéance. Un professionnel de santé peut vous renseigner sur les moyens de prévention et traitement existants.
Le papillomavirus n'est pas un virus de plus sans conséquences. Informez-vous avec le soutien de MSD.
Non, c'est pas vrai. Regarde, un groupe de rock de San Francisco vient de me commander 3 guitares.
Attends, mais depuis quand ta boutique est en ligne?
Depuis que je suis raccordée à la fibre.
La fibre? Ici? J'en reviens pas.
Oh, mes guitares vont sur scène à San Francisco, c'est la classe!
Réinventer notre quotidien et renforcer nos liens, en garantissant l'accès au très haut débit pour tous et partout, c'est ça la France qui se réalise.
Ceci est un message du gouvernement. Plus d'infos sur gouvernement.fr.
RTL.
Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Je vous propose une balade dans les plus beaux villages du Var en compagnie de Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Grand Prix RT Lire 2021 pour son roman Des Diables et des Saints.
Chemin d'écrivain.
Rendez-vous demain à 12h45.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match avec Philippe Sanfour, Xavier Barré, Stéphane Powell, Sébastien Tarrago et Mickaël Lefebvre, notre correspondant à Monaco. Il y a un match qui a débuté à 17h. L'AS Monaco qui essaye de se lancer enfin dans ce championnat. Mickaël, c'est pas bien parti. Hein.
Ouais, c'est compliqué, effectivement, puisque les Monégasques sont menés 1-0 par le Racing Club de Lens. Un but inscrit à la 51e minute par Ignatius Ganago, bien aidé par le portier monégasque Alexandre Noubel. Et il y a quelques minutes, à l'heure de jeu, tout précisément, et bien Doucou côté lensois a été exclu après un tacle sur Crépin Diatta. Là, on joue la 76e minute dans cette rencontre et les Monégasques sont bien sûr en attaque pour tenter d'égaliser dans cette rencontre. Niko Kovac, qui avait fait pas mal de changements au début de la rencontre, a fait rentrer coup sur coup Volante, Boadou, Gelson Martins et à l'instant la Fabregas. C'est un ballon d'ailleurs pour les Monégasques dans la surface de réparation. Ils font le siège depuis quelques minutes. Mais une nouvelle fois, ça va pas être cadré là de la part de Jean Lucas. Donc Monaco en grande difficulté et Lens qui doit tenir donc à 10 contre 11 dans le dernier quart d'heure, même s'il y aura pas mal d'arrêts de jeu, puisque Crépin Diatta est resté assez longtemps au sol.
Très bien, Mickaël. Ben, s'il se passe quelque chose, vous intervenez. Vous êtes bien sûr le bienvenu. Place au direct. Et Monaco, pour le moment, ça ferait un point en trois matchs. C'est pas déglingo. On va parler de notre Ligue 1 pour commencer l'émission. Je vous le disais, 66 buts, enfin maintenant 67 en deux journées et deux matchs pour le moment. Des gros bousculés par les petits. Alors, messieurs, notre Ligue 1, qu'on charrie souvent. Est-ce que c'est pas le championnat le plus attrayant du moment?
Mais le match dont on vient de parler, là, il fait bien partie de la Ligue 1. D'accord.
Oui.
Ça, c'est un vrai match de Ligue 1. La Farmers League, déjà, c'est Farmers Terrain, là, parce que c'est un champ de patates. La première période, il y a eu à peu près trois passes qui sont arrivées dans les 25 derniers mètres. Si Nubel n'avait pas fait n'importe quoi dans ses sorties au pied, il ne se serait rien passé globalement. Non, faut raison garder quand même. Faut raison garder. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a aussi beaucoup d'équipes qui n'ont pas digéré complètement leur préparation physique, donc qui ne sont pas capables de tenir sur 90 minutes. La même intensité physique, la même concentration tactique aussi, parce qu'on essaye toujours, on a toujours de bonnes intentions en début de saison de mettre certaines choses en place. Même les grosses formations, même le Paris Saint-Germain, tiens, qui est en tête et qui a gagné ses trois premiers matchs, c'est pas sur 90 minutes. On voit bien qu'il y a des plages de 15-20 minutes où d'ailleurs ils sont immédiatement sanctionnés. Au final, ils en ont mis 10, mais ils en ont pris 5 déjà. Donc ça, vous prenez Marseille, c'est encore plus net. Ça saute aux yeux le fait qu'il y ait deux parties dans un match, parfois maîtrisé, parfois absolument pas. Donc ça va se réguler. Je pense quand même que l'ADN de la Ligue 1 va revenir très vite avec les premiers frimas de septembre.
C'est pas très sympa ce que vous dites, Philippe.
Et qu'on va retrouver notre bonne vieille Ligue 1 sérieuse, concentrée,
c'est agréable,
développe
là,
bien en place.
J'ai l'impression d'écouter Didier Deschamps.
Après, il y a des entraîneurs qui ont des philosophies et dont ils ne varient pas. Quand même, à Clermont, Pascal Gassien, on en parlait l'année dernière lorsqu'on m'interrogeait sur la Ligue 2, il a une idée de jeu, il la met en place, ça marche pas, mais en tout cas, c'est toujours du beau jeu. Donc je pense qu'à Clermont, par exemple, cette année, ils vont perdre des matchs, beaucoup sans doute, à un moment ou à un autre, mais il y aura une volonté d'essayer de jouer. Il y a quelques entraîneurs comme ça qui sont arrivés, qui insufflent quand même quelque chose de positif, donc... Il faut bien sûr raison garder, comme le dit Philippe. Il faut être prudent. On verra dans deux mois. Mais je trouve quand même que c'est plutôt positif. Alors, de là à dire que c'est le championnat le plus excitant du moment,
oui, bon.
je vous reconnais, Florian. Mais,
c'est
mais
peut-être parce que j'ai pris l'abonnement, je rentabilise.
Vous rentrez de vacances, c'est qu'on n'a pas tout vu.
Vous avez raison.
Aussi. Mais, si, j'ai tout vu, justement.
Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa.
Non, mais. Prêt. Oh, pardon.
Vas-y.
Allez-y. Hein.
Mais non, mais l'histoire, c'est que certaines presses essayent de.
Une certaine passe. J'adore quand ça commence.
D'embellir. D'aucuns prétendent.
D'embellir certaines rencontres en disant que c'était fantastique. Moi, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'officier sur le match Bordeaux-Marseille. Enfin, Marseille-Bordeaux. C'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire, Bordeaux était d'une faiblesse défensive en première mi-temps. Marseille, si on va sur les réseaux sociaux,
Marseille
est magnifique. Pour finir, il y a 4 buts. Non, mais tout ça, c'est bien. Ça fait du spectacle. Il y a du monde dans le stade.
C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, pardon, je te relance, mais.
C'est mon boulot, ça, Sébastien.
Pardon, mais je rêve de prendre déjà votre place. Et c'est Christian Olivier qui m'a demandé. Mais ça peut être faible, mais sympa. En général, la Ligue 1, c'est faible et chiant. Et ben là, ça peut être faible et sympa.
Alors, je préfère que ce soit sympa.
Alors, c'est faible et sympa. C'est faible et sympa. Parle aussi aux supporters du LOSC. Tu vas voir si c'est faible et sympa. Le LOSC, pour l'instant, est à la ramasse. Monaco, excusez-moi, mais Champions League, championnat, c'est compliqué.
Deux matchs, Lille. Non, mais, ils ont gagné le trophée des champions.
Mais tu sais très bien, avec mon petit cœur lillois, mais là, les miracles, c'est à Lourdes. Hein, parce que là, ce que je vois là, dans l'état d'esprit, est déjà. Certains entraîneurs sont déjà remis en question. Moi, je suis moins dithyrambique que Flo. Alors, je vais pas tout noircir, parce que Paris, on va attendre que tout le monde joue. Enfin,
non,
voilà.
On va pas quand même se plaindre d'avoir des 2-2 plutôt que des 0-0. Donc, il y a des erreurs, bon, au moins 2-2, bon, on voit des buts, il y en a toujours une équipe qui doit faire.
Temps, hein,
non, mais même hier soir, par exemple, hier soir à l'Armoricaine, il y a eu 4-2. S'il n'y avait pas eu les boulettes de Bizot, le gardien hollandais de Brest, c'est sûr qu'il y aurait. Il y aurait eu moins de buts. Bon, on a des gardiens qui arrivent, Nubel, pareil à Monaco. Ils sont nouveaux, ils sont étrangers. Il y a des problèmes de communication. Donc effectivement, pour le moment, il y a
donc c'est normal qu'ils prennent des buts.
À l'évidence, il y a des réglages à faire dans les différentes défenses. Donc voilà. Mais maintenant, on parlait souvent du championnat d'Italie à l'époque comme un championnat fermé, pas spectaculaire. C'est devenu un championnat un de ceux qui a les meilleures moyennes de buts en Europe. Enfin, parmi les 5 grands championnats, ils ont beaucoup progressé. Ils marquent des buts. À l'arrivée, on voit d'ailleurs. Accessoirement que l'équipe d'Italie est championne d'Europe. Bon, il y a peut-être eu aussi des équipes qui sont passées à travers, mais c'est plus le sujet. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez en Italie aussi des entraîneurs, et ça je rejoins ce que disait Sébastien Tarrago, qui sont arrivés avec une philosophie de jeu différente. Sarri à Naples, l'entraîneur d'Ozerbi qui est parti maintenant au Shakhtar Donetsk, mais qui était
Est-ce que ça arrive beaucoup
entraîneurs aujourd'hui qui arrivent avec, on a le sentiment qu'ils ont des philosophies différentes. Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs étrangers, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a le sentiment que les bétonneurs façon Antonetti de la Ligue 1, bah, il y en a moins qu'avant.
Mais même Antonetti, voilà. Je trouve qu'il commence à faire jouer Metz, il est en train de changer.
Ouais.
La philosophie de Gourvenec, si tout d'un coup vous pouvez m'expliquer, ça m'intéresse.
Le problème de la Ligue 1, c'était quoi? C'est qu'il y avait quand même globalement des identités défensives dans 75-80% des équipes. Moi je veux pas non plus que ce soit n'importe quoi. J'aime l'idée qu'il y ait des Antoine Camboire. C'est bien, mais je veux juste qu'il n'y ait pas que des Antoine Camboire. Là il y a un rééquilibrage.
Mais c'est ce qu'on appelle la diversité, Sébastien.
De la même manière, Peter Bosz à Lyon, sa philosophie est intéressante, mais je pense que peut-être que dans un mois il sera plus là, parce que à un moment il faut aussi quand même s'adapter un petit peu.
On va en parler de l'OL ce soir, mais non, ceci dit, c'est vrai quand même qu'avant les entraîneurs de Ligue 1, c'était mieux vaut pas perdre un match plutôt que de le gagner. Là on a l'impression que globalement on a envie d'essayer de gagner. Batic à Angers qui débute aussi. Il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui sont assez offensifs.
Angers par exemple, c'est ce qu'a réalisé monsieur Moulin à Angers, c'est exceptionnel. En termes de projet de club, c'est exceptionnel. Une montée en Ligue 1, une stabilisation du club en Ligue 1, formidable. Mais aimez le football, c'est un calvaire. Angers, c'était un calvaire.
Parfois à domicile, à l'extérieur,
c'était des accidents.
Mais ça, c'est parce que c'est ton côté positif.
Mais globalement, on s'ennuyait profondément. Très bien. Là, il y a effectivement Batic. Moi, j'y croyais pas trop, j'étais sceptique. Il arrive avec quelque chose.
Batles à 3,
c'est bien, c'est intéressant aussi. Mais peut-être qu'ils vont en prendre 3, 4, 5 de temps en temps, parce que effectivement, avec les effectifs qu'ils ont, quand ils vont jouer des équipes un peu mieux rodées, un peu plus talentueuses, ça peut faire mal. Mais je préfère ça plutôt que l'inverse.
Après tu peux pas dénaturer certains clubs, je parle des clubs du Nord par exemple, Lille ou Lens, où avec leurs moyens, en tout cas je parle de Lens surtout avec Franck Hayes.
Parce que Lille a plus de moyens.
Franck Hayes travaille bien, mais travaille aussi avec un football qui est quand même assez défensif et qui prône la contre-attaque parce qu'il n'a pas vraiment d'autres possibilités. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Mais il va prendre des buts aussi à un moment. Quand il va être en difficulté, ils n'ont pas un gros noyau, c'est pas pléthorique. Donc il y a aussi des entraîneurs qui font avec leurs moyens. Moi je ne suis pas si sûr qu'ils ont tous envie de prôner le beau football
et mettre
des
balles. Je trouve ça intéressant. Ça dépend comment tu le fais. En fait, ce n'est pas forcément.
C'est comme la mayonnaise.
Mais si tu as deux équipes.
C'est-à-dire que si effectivement tu joues un peu bas, mais qu'après tu te projettes en prenant des risques, moi je trouve ça très sympa.
Regardez, Brest hier, ils ont globalement 24 ou 25% de possession pendant le match. Ils doivent avoir peut-être 5-6 situations, mais les 5-6 peuvent être des buts. C'est à vrai. Chaque fois, parce ouais, que la projection est bonne, aussi. Parce que techniquement c'est bien exécuté.
Parce que Paris défend
mal. Tu as raison. Le constat est vrai. Simplement, le problème c'est que si tu as deux équipes qui jouent la contre-attaque, eh ben tu t'emmerdes. Et c'est ce qui s'est passé en Ligue 1 pendant de trop nombreuses années.
Bah, il vient de se passer un truc en Ligue 1, Xavier. Voilà. On va partir à Monaco. J'ai l'impression qu'il y a de la cartonite ce soir. Michael Lefebvre, toujours 1-0 pour Lens face à Monaco.
Effectivement, toujours 1-0 pour Lens, mais les Monégasques vont eux aussi finir la rencontre à 10 contre 10 du coup, puisque Alexander Golovin vient d'être exclu après un gros tacle sur Aïdara qui reste au sol, et donc il reste un peu moins de 5 minutes à jouer, mais il y aura pas mal d'arrêts de jeu. Et Lens et Monaco Lens mène 1-0 face à Monaco et sont à 10 contre 11 les deux équipes.
Et ben voilà, quand il n'y a pas beaucoup de buts, il y a des cartons. Voilà, elle est généreuse cette Ligue. Alors on revient dans un instant pour en faire le match. On reviendra un petit peu sur le match du PSG hier soir à Brest, et puis on parlait évidemment du suspense Mbappé. Dans une semaine, c'est la fin du mercato, puis on ne sait pas ce qui va faire le Kiki. A tout de suite sur RTL.
On refait le match. Découvrez My Match en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec My Match, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bonjour, c'est Julien Cellier, je vous donne rendez-vous tous les jours pour RTL Soir dès 18h avec quelques surprises cette saison et des nouveaux rendez-vous.
Et oui, On défait le monde débarque désormais à 18h40.
Avec vous donc Cyprien Signy et toute l'équipe.
20 minutes d'infos sérieuses sans se prendre au sérieux.
Bref, des angles, des sujets inattendus pour apprendre plein de choses chaque soir avant dîner.
À lundi.
Cette saison, On défait le monde débarque dans RTL Soir du lundi au jeudi à 18h40.
Tefal est aujourd'hui un acteur engagé de l'économie circulaire. On en parle avec Joël Tronchon, directeur développement durable Tefal, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les actions concrètes de Tefal en faveur de l'environnement ?
Eh bien, depuis 2012, nous organisons des opérations de recyclage pour récupérer une composante essentielle de nos poêles et casseroles, l'aluminium. Mmh. Nos nouveaux produits éco-conçus en aluminium 100% recyclé, c'est 60% d'impact carbone en moins en sortie d'usine par rapport à une poêle standard. Ah. Et nos clients, ils sont sensibles. Ils veulent limiter leur impact sur l'environnement.
Eh oui.
Avec la gamme Tefal en aluminium 100% recyclé, on est plus éco-responsable.
Et puis, on achète français.
Oui, depuis 2020, 95% de nos poêles et casseroles Tefal vendues en France sont fabriquées en France.
Joël Tronchon, merci.
On en parle. Jusqu'au 26 septembre chez Carrefour, en échange de votre ancien moule à gâteau, poêle ou casserole, bénéficiez d'un bon de réduction de 50% à valoir sur la gamme ressources de Tefal fabriquée en France. Modalité disponible sur carrefour.fr.
Hey, t'as vu que dans notre Freebox Pop, on avait Disney+.
C'est vrai. Ah, faut prévenir les enfants alors.
Et inclus dedans, il y a aussi les films Marvel et tout le contenu Star Wars et National Geographic.
Bon, hop, là tu me parles, dis donc. Préviens pas les enfants tout de suite, on garde la télé pour nous ce soir.
Disney+ est inclus pendant 6 mois avec la nouvelle Freebox Pop. Puis à 8,99€ par mois et sans engagement. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Disney+ en option. Appelez le 1044 au rendez-vous sur free.fr.
Ok, fini de le faire à l'impro. Cette année, la rentrée, on va la prendre du bon pied. Et pour ça, on file chez Centracor.
Oui, parce que si on doit retenir une chose de l'année passée, c'est qu'être bien chez soi, c'est essentiel.
Alors rendez-vous chez Centracor. En ce moment, il y a des offres exceptionnelles pour s'équiper pour la rentrée. Linge de lit, mobilier, déco, art de la table, rangement.
Centracor, c'est bien plus que de la déco. À des prix de folie.
J'adore aller chez Centracor.
Trouvez votre magasin le plus proche sur centracor.com.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match, merci Sébastien. Ouais, mon jingle. Jusqu'à 20h, on refait le match avec Sébastien Tarago, donc qui parle sur les jingles, ça c'est pas bien. Xavier Barré, Stéphane Powels et Philippe Sansfourche, le PSG donc qui a gagné hier soir 4-2. Donc beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés. J'ai l'impression que ça préfigure un petit peu le destin du club cette saison. Et avec un but de Kylian Mbappé, son premier de la saison en Ligue 1, but de la tête en plus, ça arrive pas si souvent. Et évidemment, on va ouvrir le dossier Kylian Mbappé, restera ou pas au PSG. Bah finalement, mardi prochain, c'est la fin du mercato. Donc là, à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Alors, messieurs, c'est un petit peu flou l'avenir d'Mbappé. Je sais que vous n'êtes pas ophtalmo, mais vous êtes bien informés. On en est où? Là, je me tourne évidemment vers Philippe Sansfourche, un peu spécialiste.
Obligé.
Philippe.
Bah, dans ce dossier, comme dans tous ces dossiers de transfert, il y a différents acteurs. Il y en a trois qui sont identifiés, à savoir le joueur, oui, le Paris Saint-Germain, et donc le club qui est...
Pressenti,
qui veut absolument le joueur, et où le joueur veut aller. C'est quand même important.
Oui, ça compte.
Il y a encore quelques mois, on aurait pu se dire il y avait plusieurs options, et il était d'ailleurs ouvert, Kylian Mbappé, par exemple, à la Première Ligue. Aujourd'hui, les choses, elles sont claires dans la tête du joueur. Il a envie de rejoindre le Real Madrid. Il a envie d'être au centre du projet du Real Madrid pour les 5, 6, 10 années à venir. Enfin, on verra, enfin, faut pas présager, mais en tout cas, pour une période qui s'ouvre et dans laquelle il va être à la construction de quelque chose. Ce qui est central, en fait, dans sa réflexion depuis qu'il y avait ces affaires de prolongation ou pas. Donc lui, c'est son souhait, c'est sa volonté. Maintenant, la question est de savoir quand. Est-ce que ça se fera la saison prochaine ou est-ce que ça se fera dès maintenant? Et là, en fait, la balle, elle est dans le camp du Real.
Qui n'a pas fait d'offre pour l'instant officiellement.
Non, mais elle n'est pas que dans le camp du Real.
Alors, elle n'est pas que dans le camp du Real. Mais en tout cas, si ça doit bouger avant la fin de la période du Mercato, ça viendra du Real. Je sais qu'on a souvent dit que le Real attendait, que les joueurs... Non, là, ça ne se fera pas. Parce qu'au niveau de Kylian Mbappé, il ne peut pas se permettre de monter au front, de dire « moi, je veux... » Non.
Et d'ailleurs, il est absolument irréprochable dans son langage corporel. À chaque fois qu'il joue avec le maillot du Paris Saint-Germain,
on a l'impression qu'il va rester à vie au club.
Ces derniers temps, oui, ce n'est pas par hasard, évidemment.
Parce qu'il sait qu'il ne prendra pas la parole et que justement, il faut qu'il montre dans son attitude et dans son langage qu'il est irréprochable. Et d'ailleurs, c'est très clair dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a déjà connu cette situation, même beaucoup plus jeune, donc tout début avec Monaco, quand il aurait pu éventuellement prolonger, alors que Monaco avait un peu à l'époque un double discours, c'est-à-dire peut-être que tu as prolongé, mais qu'ils étaient déjà en train de préparer le départ au Real, qui finalement s'est terminé en départ au PSG. Tout ça, il l'a conservé, il l'a emmagasiné, il sait en fait qu'il a ces deux options, que plus les jours passent et plus il y a quand même une logique à ce qu'il fasse sa dernière saison au Paris Saint-Germain, mais il est heureux au PSG. Mais c'est pas le problème. C'est que quand il se projette à 4-5 ans, maintenant il se voit dans un autre projet parce qu'il veut aussi.
Il y a un problème, c'est que
je terminerai là-dessus. Il veut aussi, au-delà du côté PSG, Real, machin, c'est un joueur de 22 ans, mais c'est aussi un homme de 22 ans qui a une construction plus rapide que la moyenne des gens, qu'il a une volonté de découvrir d'autres choses et qu'aujourd'hui il est dans la volonté de découvrir autre
l'erreur
chose que
du Paris Saint-Germain, en tout cas à mes yeux, c'est que la proposition de prolongation de contrat, elle est sur une durée très longue, 4-5 ans. Et le joueur, il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas en entendre parler parce qu'il sait que, et c'est déjà arrivé par exemple avec Marco Verratti, qui devait partir à Barcelone.
Mais il
et
a
qui
été prolongé 27 fois,
Verratti. Oui, oui, bah oui. Vous savez très bien que quand vous avez un contrat long avec le Qatar, eh ben, on vous laisse pas partir comme ça. Donc,
mais Sébastien,
le joueur, il n'était pas contre à l'idée de prolonger, mais sur une durée plus courte que les 5 années que souhaite le Paris Saint-Germain.
Sébastien, je suis pas économiste, mais si vous le prolongez 2 ans avec un salaire qui sera sans doute un des plus gros salaires du club, c'est pas rentable pour le club, non?
Pourquoi c'est pas rentable?
Bah parce que sur 5-6 ans,
ce qui est pas rentable, même s'il sera largement amorti quand même, mais ce qui est pas rentable, c'est de le laisser partir l'été prochain. Non, mais ça, c'est pas rentable. Alors que vous trouvez un accord où, avec une certitude, même si c'est pas autorisé de faire des contrats avec des clauses libératoires, mais bon, vous trouvez des solutions, mais en tout cas avec la certitude de pouvoir partir dans 2, dans 3 ans, là vous pouvez discuter. Après, il y a eu l'arrivée de Messi qui change tout, parce qu'effectivement, Philippe l'a dit, le joueur, lui, il veut être au centre du projet. Mais aussi parce que il agace beaucoup, mais parce qu'on lui a dit ça depuis des années. Ça fait des années que le club lui dit arrêtez au centre du projet. D'ailleurs, même à l'arrivée de Lionel Messi, le président Nasser Al Khelaifi l'a dit. Il a dit oui c'est Kylian qui est au centre du projet, mais enfin quand vous prenez Messi pas trop
déjà,
en fait.
Alors, c'est bien, mais parce que là tout ça est bien gentil, je vais faire hurler Philippe Sanfourche, mais il y a deux ans il y a un moment Kylian Mbappé n'a pas été au Real il y a ça 2-3 ans parce qu'on a contourné le fair play financier, c'était l'amour du PSG, puis il est resté au club très bien, il a fait ce qu'il devait faire. Et maintenant moi j'ai un regard extérieur, il fait un euro très moyen, il voit l'arrivée de Messi, on ne parle plus que de Messi, il y aura aura la, le duo avec Neymar. Et on se rend compte que Kylian Mbappé, quand le propre public du Paris Saint-Germain, il faut le dire, le siffle lors du premier match, mais il faut le dire quoi, le siffle, je
il
pense
été,
que.
Il a été sifflé à la présentation, après il a été applaudi.
Je n'ai pas fini,
hein.
Quand on a 22 ans, on parlait de l'humain. Et bien quand on est à 22 ans et qu'on se fait siffler par les supporters de Paris, qu'il a beaucoup revendiqué d'avoir des bons joueurs à côté de lui, je pense qu'à un moment, le ressort est cassé. Et je pense que maman, dans l'intérêt de Kylian. Alors, mais c'est un point de vue personnel, je pense que dans l'intérêt de Kylian Mbappé,
ce qui compte, c'est le sien.
Le sien, je suis pas sûr.
Stéphane veut peut-être pas prolonger au PSG.
Non, peut-être que Kylian Mbappé, mais vous êtes tous convaincus de ça, peut-être qu'il a envie d'aller à côté de Benzema, d'aller à côté d'Eden Hazard et jouer.
Ça va se faire.
Et peut-être que Paris va trouver un terrain d'entente et peut-être que ça va se faire. Et ce serait une bonne chose pour lui.
Il a toujours eu envie d'aller au Real Madrid, il l'a jamais caché, les posters de Zidane et d'autres joueurs du Real.
Pas Zidane, de Cristiano Ronaldo.
De Cristiano Ronaldo, pardon, dans sa chambre. Donc voilà, il a toujours eu envie d'aller au Real Madrid. Donc ça, c'est pas nouveau. Maintenant, dans quelles circonstances ? Là, il est sous contrat. Donc s'il doit partir, c'est au terme d'une négociation. Or, cette négociation, elle passe par un club, on sait le Paris Saint-Germain richissime, mais surtout qui est détenu par un État. Or, dans l'esprit du cheikh de la Al-Tamim, vous n'êtes pas un simple employé, vous êtes des sujets. Donc, ils ne vous libèrent pas comme ça. Et ils l'ont montré. Ils ont été capables de payer Ben Arfa pendant un an parce qu'il avait simplement mal parlé à son Altesse. Ils ont bloqué Rabiot pendant 6 mois parce qu'il ne voulait pas renouveler. Ils ne l'ont pas fait jouer. Donc, eux, ça ne leur pose aucun problème. Ce n'est pas un problème d'argent.
Ah, ils sont capables de mettre sur le côté Kylian Mbappé.
Je ne pense pas pour des raisons d'image qu'ils le feront. Mais ça ne leur pose aucun problème s'ils partent libre l'an prochain.
Ça leur pose un problème.
Pose un problème pour le fair play financier, mais au point de vue des finances du club, c'est pas très important.
De toute façon, il n'y a plus de problème d'argent.
Voilà, il n'y a plus de problème
d'argent. C'est les milliards qui coulent.
Et d'ailleurs, dans la presse espagnole aujourd'hui, ils disent que c'est fini, le Real Madrid ne l'aura pas cette année.
Il n'y a pas un jeu.
Il ne pourra pas l'avoir. Non.
Est-ce que les médias espagnols ne jouent pas un jeu?
Il faut voir.
Attention, au Paris Saint-Germain, on est persuadé parce que. Aussi bien Kylian Mbappé que son entourage, ils n'aiment pas se fâcher forcément avec les gens. On l'a vu avec Monaco à l'époque.
Il ne faut jamais insulter l'avenir.
Exactement. Ils avaient demandé au Paris Saint-Germain de s'aligner sur la proposition du Real Madrid pour venir au Paris Saint-Germain, par exemple. Il y avait 180 millions d'euros qui étaient tombés du côté du Real Madrid. Il fallait, si le Paris Saint-Germain voulait le joueur, qu'ils mettent 180 millions d'euros. Donc ils ne veulent pas se fâcher. Mais là, il se trouve que ça s'est quand même détérioré, les relations. Voilà. Les relations se sont détériorées. Donc il faut faire attention du côté du Paris Saint-Germain quand même, parce que laisser partir un joueur libre de ce calibre-là, même symboliquement, c'est quand même pas très
messieurs,
bon.
On va en reparler après le flash de 19h de Kylian Mbappé. Est-ce que l'arrivée de Messi, de jouer avec Messi, ça peut changer en même quelque chose chez Kylian Mbappé? Avant ça, on va partir à Monaco. C'est terminé, Michael Lefebvre, alors?
Oui, c'est terminé, puisqu'il y a eu même un deuxième but en faveur des Lensois, inscrit au bout du bout du temps additionnel par intermédiaire de Banza. Ganago qui avait ouvert le score et une expulsion de chaque côté avec Doucouré et Golovin du côté de l'AS Monaco. Très mauvaise opération pour l'AS Monaco qui n'a toujours pas gagné en Ligue 1. Très bonne première victoire en Ligue 1 cette saison pour le Racing Club de Lens.
Merci Mickaël. Et donc l'AS Monaco, un point en 3 matchs, début de saison compliqué pour l'AS Monaco. RTL, il est 19h. Le flash, Guillemette Franquet, bonsoir.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Des milliers de personnes ont défilé ce samedi dans la rue pour dire non au pass sanitaire et à la vaccination. À Toulon, 6000 manifestants ont défilé dans la ville selon la préfecture du Var. Ils étaient 9500 à Montpellier. À Paris, près de 20 000 personnes étaient attendues. La semaine dernière, 215 000 manifestants ont été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur. Ce samedi, 800 malades du Covid ont été hospitalisés en 24 heures, dont 165 en soins critiques, des hospitalisations majoritairement en Guadeloupe, Martinique et dans les Bouches-du-Rhône, selon Santé publique France. Des orages ce soir dans le quart est de la France. 4 départements sont en vigilance orange. La Côte d'Or, la Haute-Marne, la Haute-Saône et les Vosges. Une dégradation orageuse qui risque d'être violente. Alerte Météo France avec de la grêle, une forte activité électrique et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Aux États-Unis, l'inquiétude face à l'arrivée de l'ouragan Henri sur la côte nord-est. Un ouragan de force 1. Henri devrait toucher dimanche Long Island, près de New York ou un peu plus au nord. Ce pourrait être le premier ouragan à toucher cette côte américaine depuis 30 ans. Sur la route en samedi, bien compliqué pour les vacanciers sur la route du retour. Bonsoir Nathan Vaucard.
Bonsoir Guimette.
On commence à respirer.
Alors oui, ça s'améliore en début de soirée, mais attention quand même, surtout si vous remontez à Paris sur l'autoroute A10, la circulation est très dense au péage de Saint-Arnoult. Comptez plus de 6 heures pour faire Bordeaux-Paris. Et puis sur l'autoroute A7, la circulation est de plus en plus fluide après une journée très chargée, mais comptez quand même plus de 60 km de bouchons si vous remontez vers Lyon depuis Marseille.
Merci beaucoup Nathan. Dans la Sarthe, les 24 heures du Mans ont commencé aujourd'hui sous la pluie et sur un circuit glissant. Déjà 3 heures de route alors, où en est-on Frédéric Veil?
Eh bien écoutez Guillemette, pas de changement, peut-être avec la Toyota du japonais Camille Kobayashi qui mène la danse, suivie par l'autre Toyota, celle du Suisse Sébastien Buemi. Puis dans le même tour, en embuscade, l'Alpine, c'est le Brésilien André Negrao qui est actuellement au volant du bolide de la marque française qui, on le répète, effectue 43 ans après la victoire de Didier Pironi et Jean-Pierre Jossot, son grand retour dans la catégorie reine des 24 heures du Mans avec bien évidemment l'objectif d'aller remporter cette 89e édition. On est à 20h57 de l'arrivée, il y a encore beaucoup de temps, la piste est sèche pour l'instant et donc deux Toyota en tête juste devant l'Alpine.
Merci beaucoup Frédéric Veil. En foot, Monaco recevait Lens pour la 3e journée de Ligue 1. Eh bien c'est une victoire de Lens, Mickaël Lefebvre.
Effectivement, Guillemette, les supporters lensois qui font la fête là-bas dans leur tribune. Victoire 2-0 face à l'AS Monaco grâce à des buts de Ganago et de Banza en toute fin de match. Les deux équipes qui ont fini à 10 contre 10 après l'expulsion de Doucouré côté lensois et Golovin du côté de l'AS Monaco.
Merci beaucoup Mickaël Lefebvre. À 21h, nouveau match pour cette troisième journée de Ligue 1. Saint-Etienne reçoit Lille. Demain, les orages seront toujours présents dans l'Est. Un peu plus à l'ouest du nord au bassin parisien, eh bien, il faut s'attendre à de la pluie. Le soleil sera au rendez-vous sur l'arc méditerranéen. Il sera hésitant mais finalement présent sur la côte atlantique. Comptez des nuages dans la RPI. Côté température, il fera 19 à Boulogne-sur-Mer, 20 à Dunkerque, 23 à Paris et 35 à Nîmes. Les courses, elles avaient lieu à Deauville. Le classement final, l'As, le 4, le 10, le 8 et le 9. Il est 19h03 sur RTL. La suite dont refait le match, c'est avec vous Florent Gazan.
Merci Guillemette, on se retrouve à 20h pour d'autres infos.
Tout à l'heure.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
La suite dont refait le match jusqu'à 20h. Après, ce sera RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Costaldi. Vous suivrez notamment le Saint-Etienne-Lille à 21h sur RTL. Je vous rappelle, hein, 17h, c'était Monaco-Lens. Et encore une défaite pour Monaco. Un point sur trois journées de championnat. Et puis la qualification pour la Ligue des Champions, c'est pas gagné. Ça se jouera mercredi. Ils avaient perdu à domicile contre Donetsk 1-0 cette semaine. Les Monégasques, donc un peu compliqué cette semaine pour l'équipe du Rocher. On en parlera un petit peu tout à l'heure, comme on parlera de Lille et de l'OL, deux équipes dans le dur. On va revenir avec Philippe Sanfour, Xavier Barret, Stéphane Poel et Sébastien Tarrago, pardon, sur Kylian Mbappé. On va finir sur Mbappé avec est-ce que l'arrivée de Messi, on l'a lu dans l'équipe cette semaine, que finalement quand même il kiffait de jouer avec Messi, Kylian Mbappé, qu'il était assez admiratif du joueur. Est-ce que c'est pas le calcul du PSG de se dire quand il va commencer Kiki à jouer avec Messi, il va se rendre compte que le projet il est quand même pas mal et finalement il pourrait prolonger?
Ce serait le bonus, c'est assez peu probable, mais ça peut être éventuellement dans un coin de leur tête. Je crois que la réflexion principale du côté du Paris Saint-Germain, et je crois que Xavier l'a abordé, c'est que en fait tu as l'occasion, même si c'est pendant une saison, et même si peut-être qu'à la fin tu laisses partir un joueur du niveau d'Mbappé pour rien, et que symboliquement ce serait pas exceptionnel, mais par rapport au fait de pouvoir aligner pendant une saison pleine
avant la Coupe du
Messi,
Monde,
Neymar et Mbappé, je pense que ça vaut tous les transferts possibles. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'en ce moment, sur le plan financier, c'était pas du tout. Ça n'a jamais été le principal problème pour le Qatar. Ça allait encore moins en ce moment.
Ils n'appellent pas cet élève. Hein,
et le fait est que c'est ça, cet affichage-là, c'est le bonus plus.
Philippe, tu peux regarder d'un autre regard. Un, lui, il a envie d'y aller. À Madrid? Non, même si tu dis le contraire, il a peut-être envie d'y aller. Deux.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Non, donc il a envie d'y aller.
Il a dit qu'il voulait y aller.
Il y a un risque financier, parce que pour Paris, quand même, ne rien en tirer dans un an, parce que moi je veux bien, hein, pour l'instant, tout le monde va jouer ensemble, on attend, comme dit Flo, que tout le monde soit là pour jouer ensemble et qu'on va avoir une belle équipe. Il y en a un qui est toujours en train de boitiller, il est pas encore là. Il y en a un qui a 3 kilos de trop, il va falloir quand même 2 mois. Et Messi va arriver au top au mois d'octobre. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour savoir qu'offensivement, ça va être cette Dream Team. Moi je pense qu'il a tout intérêt. Et dans les deux parties d'ailleurs.
Je ne parle même pas encore de jeu là. Paris, tu parles non, déjà d'affichage, mais même, de marketing.
Mais même
mondial,
d'affichage, de marketing, je pense que Kylian Mbappé, vu aussi, et je vais le redire, il est quand même, en termes d'image, il a pris une petite secousse avec l'Euro. On peut dire ce qu'on veut. Il a quand même pris une petite secousse, et pas que de sa faute, mais il est quand même passé un peu à côté de son Euro, comme d'autres. Et ce n'est pas lui que j'attaque. Et je pense que dans son intérêt, et dans l'intérêt de Paris, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'il aille au Real.
Il a pris une secousse, comme tu dis, auprès des. Des gens qui aiment beaucoup le football, oui. Qui suivent beaucoup le football. Là, c'est vrai. C'est vrai.
Qui aiment le ballon, c'est vrai.
Les gens qui suivent le foot, ils en ont un peu marre. Mais au niveau du grand public, oui. Alors là, je te dis tout de suite, il est au-dessus du game. C'est Zidane, c'est machin. C'est-à-dire que ça y est, il
au-dessus
a basculé.
Au-dessus du game, il est devenu rappeur cet été.
Il a basculé dans une autre dimension. J'ai vu avec Silvestro avec des cheveux gris, argentés. Oui. Du coup, je me suis dit.
Mais il a perdu un pari, c'est pour ça.
Je peux me lâcher.
Malgré l'échec de l'Euro, tu penses qu'il restait au top du game.
Mais Kylian Mbappé aujourd'hui, enfin, avant l'Euro, il fait la couverture de l'Obs. Il fait des couvertures aux États-Unis. Il fait.
Tu parles de marketing.
Il a sa marque chez l'équipe américaine.
Non, mais vous parlez de marketing.
Mais
il parle de football. Si tu vas parler aux gens qui regardent le football trois fois par an ou tous les deux ans pour les grandes compétitions,
ceux-là,
oui, jeunes. Ouais. Peut-être. Les gamins, ils ne parlent que d'Mbappé.
Les amoureux du ballon, ils sont
fils qui a 5 ans, qui en a rien à secouer des matchs de foot aujourd'hui, il connaît un joueur, c'est Kylian Mbappé. Parce que dans la cour, parce que c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Zidane, par exemple,
c'est à Paris,
il pouvait se mettre en slip kangourou sur une table, on disait c'était formidable. Mais c'est comme ça.
Non, mais moi je pense vraiment que footballistiquement, il est jeune, et même s'il est, il a un énorme talent, il y a quand même des gens qui ont été très déçus de ce qu'il nous a proposé. Et je pense que pour lui.
Bien sûr, il y a des gens qui ont sifflé là.
Je parle pas des gens qui sifflent. Je parle des gens qui aiment le ballon. Moi, par exemple, j'aime ce joueur. Il m'a déçu à l'Euro sur la partie football.
Mais pourquoi sur la partie football?
Parce que je pense que j'étais déçu dans sa manière, dans son obsession de prendre le couloir et de pousser le ballon et de pas forcément jouer avec les coéquipiers. Non, mais c'est un regard.
Il
ça.
Est quand même impliqué quasiment sur tout.
Vous êtes les grands défenseurs. Je vous dis simplement.
On est en train de dériver, on s'éloigne du débat.
J'ai pas fini. Je suis en train de vous dire.
Mais finissez parce que c'est pas le thème.
Le thème, je pense que pour lui, c'est un magnifique joueur et que peut-être pour lui, pour redevenir l'exceptionnel joueur qui pourrait éventuellement être. Parce que je vous rappelle qu'ici, on parlait de Ballon d'Or. On en est loin du Ballon d'Or de Kylian Mbappé cette année.
Ça va, il a 22 ans.
Non, mais on en parlait ici pendant l'Euro. Vous savez bien, Gilles Verdez, il me disait Ballon d'Or. Il va être Ballon d'Or après l'Euro. Bon, donc Sébastien. Je pense que pour l'être, il doit partir au Real. C'est Stéphane. Aller au Real et il va retrouver son envergure. S'il reste à Paris, il va être écrasé par les autres.
Bon, Stéphane, vous allez prendre un petit verre d'eau parce que vous êtes tout rouge. on va finir avec Kylian Mbappé. Donc dans 10 jours, c'est la fin du mercato. En gros, je vais vous demander vous me dites, à votre avis, est-ce qu'il part au Real d'ici le 31? Est-ce qu'il reste à Paris? Et s'il reste à Paris, est-ce qu'il peut quand même, finalement, finir par prolonger cette saison? On va commencer par, Sébastien. Alors.
Non, mais.
Non, il n'y a pas de nom.
Je ne
vous demande pas de mettre votre maison.
J'essaye de donner les informations que j'ai qui correspondent à celles de Philippe Sansfourche, à savoir que le joueur a plutôt envie de partir. Mais.
Non, mais je vous demande ce qu'il va faire.
Si je devais mettre une pièce, on met une pièce.
De combien?
Je pense qu'il resterait.
Alors, il va rester. Pour vous, Stéphane?
Mais parce qu'on l'a sifflé, que ça lui a fait mal.
Non, je ne me refais pas une.
Donc, je mets. Un billet, lui a mis une pièce, mais je mets un bon billet.
Ah, mais les billets, ça peut
va partir au Real.
Il va partir au Real avant le 31.
Oui.
D'accord, Xavier.
Non, pour moi,
ou le 31.
Chance. Il reste à Paris jusqu'à la fin de son contrat.
D'accord. Et
mais je ne le vois pas renouveler.
Philippe.
Non plus.
À 80%, il reste, oui, parce qu'il y a tellement d'implications pour qu'il parte. Il faut que le Real sorte du bois, qu'il fasse une proposition qui soit suffisamment importante pour que ça fasse réfléchir le Qatar, ce qui aujourd'hui n'a absolument pas envie de réfléchir. Pour toutes ces raisons-là, il y a beaucoup plus de probabilités qu'il reste plutôt qu'il parte.
Mais le Real veut sortir du bois.
Mais
le Real veut sortir du bois, ça aussi c'est une certitude, tout derniers jours du mercato. Le Real Madrid a envie de tenter le chou.
Le montant,
au milieu de combien?
Ils vont mettre 150, quoi.
120, 130.
Oui, mais ça, tout le monde le sait. Ça, même, les dirigeants du PSG, s'ils écoutent la radio, ils lisent les journaux, ils le savent que c'est ce qui va se passer normalement. Enfin, moi, je le dis.
Et vous savez ça, Florent?
On a dit ça très longtemps avec Neymar et le Barcelone, et il n'y a jamais rien eu, à part des propositions de je te vends deux cacahuètes, trois joueurs, et je rajoute 30.
Ouais.
Bon, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, fin du mercato le 31 août. Samedi prochain, on sera là, donc on aura peut-être avancé. Peut-être que le Real sera sorti, comme vous dites, du bois ou pas. Dans un instant, on va parler de l'OL. Ça se passe pas très très bien non plus, comme Monaco pour l'OL. La semaine a été compliquée. On va débattre de cette OL qui est peut-être en crise dans un instant sur RTL. C'est On refait le match.
RTL, on refait le match.
Bonjour Julien Bontemps, vous êtes maraîcher depuis plusieurs générations. Vous récoltez vos produits les plus frais pour servir la meilleure qualité à vos clients. Et vous ne pouvez jamais rater une livraison. Et c'est là que nous intervenons. Avec Esso, vous arriverez l'esprit tranquille à votre destination. Esso, nous faisons notre maximum pour que vous puissiez faire ce que vous aimez. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
Papillomavirus. C'est joli, c'est léger, ça évoque les prairies et les fleurs sauvages. Pourtant, les infections à papillomavirus touchent environ 80% de la population sexuellement active, femmes et hommes confondus. Les infections à papillomavirus sont le plus souvent sans symptômes et éliminées spontanément par l'organisme. Cependant, dans certains cas, elles peuvent provoquer différents types de cancers. Environ 6300 nouveaux cas par an en France.
Le papillomavirus n'est pas un virus de plus, sans conséquences. Informez-vous, avec le soutien de MSD.
Leclerc. Oh, j'adore la rentrée. Un élève, 4 pages de fourniture.
M'en parlez pas, j'ai la même liste. Heureusement, il y a plein de promos pendant l'opération rentrée.
Ah bon?
Regardez, 45% de réduction sur le lot de 300 feuilles A4 de la marque Esquisse de sélection d'experts. 1,04€ au lieu d'1,90€. Et fabriqué en France.
Oh, vous êtes un pro, vous. Je vais vous suivre. Allez, plus que 200 trucs à trouver.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 3 août au 4 septembre. Modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. On va ouvrir le dossier de l'OL. Un partout face à Brest, un premier coup de tonnerre de Brest. Puis raclé 3-0 à Angers dimanche dernier. Le début de saison de l'OL ressemble un petit peu à la fin de la précédente. Et cette défaite catastrophique face à Nice qui avait privé les Lyonnais d'une qualification en Ligue des Champions. Eh bien, comme si l'atmosphère n'était pas suffisamment tendue comme ça, Marcello, le défenseur central, a été mis à pied par le club pour comportement inapproprié. Messieurs, est-ce que c'est déjà la crise à l'Olympique Lyonnais?
Ah oui. Ah oui, et surtout, vous voyez, je vois sur le tableau là-bas au fond, Lyon-Clermont-Ferrand.
Oui,
eh ben,
bah c'est demain.
Si demain, il y a une défaite contre Clermont, là, c'est une catastrophe. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les déclarations notamment de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui, à mon avis, s'est coupé du vestiaire.
Ah, il proteste pas son groupe. Hein,
s'il y a une défaite demain, ça peut exploser. Il faut absolument pour l'Olympique Lyonnais gagner. Et. Pourquoi pas repartir de l'avant? Mais il faut savoir que Peter Bosch...
On ne sait pas comment on dit Bosch.
Non,
Bosch,
mais c'est Bosch. Ouais, bon, allez.
Bock.
Bosch, si vous voulez. Il a une philosophie de jeu, on en parlait en début d'émission, et il n'en changera pas.
Ce qui lui a coûté sa place à Dortmund,
d'ailleurs.
Il est allé
dans le mur, parfois en Allemagne, dans certains clubs, parce que ça ne fonctionnait plus. Il est resté droit dans ses bottes et dans son système de jeu. Donc, il ne changera pas. Et aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il n'a pas forcément les joueurs qui lui permettent de jouer comme il en a envie.
Enfin, ça, il savait avant de venir, non? Il avait étudié un peu l'équipe,
j'imagine. J'espère, mais bon, il s'est peut-être trompé aussi. Et lui, visiblement, de ce que l'on me dit, il est un peu surpris par la mentalité de travail de certains joueurs.
Bah, il l'a dit en conférence de presse hier. Pour le coup, lui, pour le...
Oui, non, mais parce qu'en conférence de presse hier, il a dit oui, on a bien travaillé mercredi.
Il a dit la mentalité. Non, parce qu'il y a eu cette banderole aussi des supporters lyonnais.
C'est ça le plus grave.
On sait qu'ils peuvent être un petit peu virulents. Hein. Rudy Garcia et Bruno Genesio peuvent en témoigner. Cette banderole, donc, au centre d'entraînement de Lyon hier matin, en gros, c'est « Bougez-vous ou cassez-vous ». Bon, c'est bon là. Et Peter Bosz, en conférence de presse, il a dit « Ah, moi, je suis d'accord. »
Ce qui est terrible, c'est que vous ne parlez jamais d'une personne. On n'a pas encore parlé d'une personne ici. C'est lui le maillon faible du club.
Laurence Boccolini ?
C'est Juninho. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est que Olas, on ne l'entend plus depuis 2 mois. C'est bizarre. Comme d'habitude, il est toujours
classique.
Présent.
Après, parfois, on lui reproche de tout le temps en faire trop.
Alors, Juninho, qui lui, à mon avis, son rêve, c'est un jour d'être entraîneur. Mais on ne l'entend pas. Il a envie de mettre
une
peau de banane ou un savon à Peter Bosz. Et parce que si jamais tu es directeur sportif, tu dis quand même à Bosz, calme-toi, tu viens d'arriver, va pas mettre des tacles comme ça à tout ce qui bouge dans ton vestiaire. Et Marcello, qui est quand même une imposture, ça fait 2 ans, tout le monde se demande ce qu'il fout encore là, c'est un boucher.
Non, mais attends,
il a été prolongé par votre ami Rudy Garcia.
Ouais, Je te laisse finir. Rudy Garcia, je suis pas d'accord avec ça. Ah ça, bon. C'est ce qu'on essaye de faire fuiter.
En tout cas, c'était au moment où il était entraîneur.
Oui, oui. Rudy Garcia, c'était au mois d'avril que Marcello a prolongé. Tout le monde savait, surtout les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, que c'était terminé. Donc, le responsable de la prolongation de contrat, les responsables de la prolongation de contrat de Marcelo en avril, ce sont Juninho et la direction sportive dans son ensemble et présidentielle, Vincent Ponceau.
Et alors, il
faut arrêter de dire que c'est Rudy Garcia.
Donc, j'en reviens, il a raison. Bah, écoutez, et puis j'arrête, je laisse la place, mais Juninho. C'est le fils, l'un des enfants du président Aulas, on le mettra donc pas dehors et donc on le laisse faire n'importe quoi depuis 2-3 ans et on se retrouve, ils sont coincés,
ils ont fait une erreur, ils sont coincés
et donc ça part en sucette tout le temps. Et ouais, le Peter Bosz, tu l'envoies pas comme ça au casse-pipe, hein. Tu lui dis à mon petit garçon, calme-toi, tu viens d'arriver, tu vas pas me dire que tous les joueurs c'est des clinches,
tu l'envoies pas au casse-pipe. Il y a aussi, t'as quand même l'impression, on parle d'une erreur, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup quand même maintenant depuis plusieurs saisons,
c'est un peu la théorie des dominos,
et t'as quand même le sentiment que tout ça est pas très maîtrisé, que c'était un effet de com finalement, encore une fois, parce que le sujet de l'entraîneur à Lyon, il est toujours assez
sulfureux. C'est Lyon, Philippe, c'est pas Clermont. Hein.
Il faut envoyer des messages aux supporters, des garanties de ceci, de cela. Et finalement, est-ce que ce projet, il a été bien pensé? Est-ce que Peter Bosz, il a été particulièrement mis au parfum de la situation financière
Donc
du club,
il est responsable de ça.
Quand il est arrivé déjà, au bout de 3 jours, fallait changer le gardien, fallait changer la moitié des joueurs, fallait changer. Non mais
donc c'est la direction qu'il faut
changer. Ça veut dire que le projet n'a pas été présenté de manière lisible, et ça veut dire surtout que est-ce que ce garçon, ce technicien, aussi bon soit-il, ayant démontré de très belles choses, il est vrai, sur les saisons passées, est-ce que c'était l'homme idoine pour le projet de Lyon à ce moment-là, avec finalement l'actif de Lyon, c'est quoi? C'est d'avoir un bassin, d'avoir un centre de formation et de se recentrer surtout dans cette période difficile.
Philippe, tu peux mettre n'importe quel coach, c'est le même cas, il faut déjà
mettre 15 millions sur le gardien.
Ouais, mais Philippe, tu dis c'est pas l'homme de la situation, l'homme idoine, mais tu peux mettre n'importe quel entraîneur maintenant. Xavier, je laisse la parole. Tu peux mettre n'importe qui, tant que la direction va continuer à avoir une politique qui est incohérente. N'importe quel entraîneur maintenant, on l'a vu quand même dans le passé, Genesio et toute la clique. À un moment, c'est parti en sucette. Ça va repartir
en
sucette.
Ils ont un problème. De toute façon, tu en as parlé au début, mais ils ont un problème avec Juninho. Sauf que ils ont fait une erreur.
On a le droit d'avouer ses erreurs. C'est compliqué
parce que si tu commences à dire que t'as fait une erreur avec Juninho alors que le type est en place, c'est compliqué. Mais surtout l'énorme problème, c'est que Juninho, aux yeux des supporters, est intouchable. Et ça, c'est un souci.
Parce que
il a beau faire énormément d'erreurs, notamment pour prolonger Marcelo, entre autres, on lui reproche rien à lui.
Oui, enfin, il y a un moment donné.
Le problème, c'est que Juninho, tu peux pas le balancer comme sélectionneur de l'équipe de France, comme avait fait Aulas à l'époque avec Jacques Santini, quand il savait plus quoi en faire. Donc, il est vraiment dans une impasse. Donc, la situation est très compliquée. Maintenant, quand on dit la centre de formation de Lyon est extrêmement prolifique, on est d'accord. Mais Peter Bosz, c'est pas forcément un mauvais choix de ce point de vue-là. Il est quand même passé par l'Ajax. Il a su gérer des jeunes formés au club. Quand il est allé vers Leverkusen, même s'il finit par se faire virer, il reste quand même 2 ans et demi. Et Leverkusen, c'est aussi un bon centre de formation. Donc, il sait faire monter les jeunes. Le petit Florian Wirth, qui est très talentueux, c'est
Mais Juninho est en guerre.
Le problème, c'est que Juninho
dit partout que les jeunes de Lyon ont une mentalité catastrophique.
Le problème de mentalité, ça fait des années qu'on le sait.
Oui, mais ça, c'est quand même un souci. C'est-à-dire que
quand le patron du club dit ça,
il taille ses propres pépites. Et à un moment, c'est un souci. Donc, auprès de l'entraîneur, auprès de l'extérieur, c'est une catastrophe. Et il est en guerre avec les gens du centre de formation. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une pétaudière, l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a Jean-Michel Aulas qui peut-être arrivera, même qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qu'il arrivera peut-être à remettre.
Pour l'instant, c'est pas où il est.
Les choses à l'endroit, mais là c'est une pétodière.
Ouais. T'as l'impression que, après Jean-Michel Aulas, c'est pas non plus lui faire offense de dire que les années passent, qu'il est peut-être un peu moins
dans le game, comme dirait Sébastien.
Voilà. Il était aussi épaulé.
Je présente mes excuses à mes parents.
Le regretté Gérard Houllier, qui avait un poids aussi important dans les décisions, finalement, dans la tenue de ce club.
Bernard Lacombe aussi.
Sur la longueur. Oui, mais c'est pareil, Bernard Lacombe, c'est pas l'avenir du club.
Non, mais c'est des gens qui sont plus là, qui avaient un poids.
C'est pour dire que tout ce qui a fait que ce club était, comme on l'a souvent dit, très bien géré, un modèle à la française, une montée en puissance. Aujourd'hui, on va dire que les ingrédients ne sont plus forcément là, qu'il y a un glissement. Et que c'est quoi l'avenir aujourd'hui? C'est Tony Parker, vous en êtes sûr? Je sais pas, moi.
La seule chose, c'est qu'ils ont une capacité exceptionnelle à gérer les crises. Je pense que Jean-Michel Aulas est le président le plus...
C'est le démineur.
Le meilleur dans les moments de crise. Et d'ailleurs, c'est peut-être un souci, parce que parfois, du coup, il est tellement fort dans ces moments-là, où vraiment ça
peut... Qui les provoque.
Mais non, c'est pas ça, mais c'est juste que du coup, des fois, tu vas pas travailler sur le fond du problème.
Ouais, il le règle, mais
tu
pas jusqu'au bout.
Tu règles le problème, ouais. Mais effectivement, ça revient. Et là, t'as raison, depuis quelques années, il y a un vrai souci.
C'est quoi le problème d'ailleurs ? Parce que finalement, c'est vrai que Jean-Michel Aulas est toujours vendu comme le rival numéro 1 du PSG Made in Qatar. Seulement, parmi les clubs qui ont réussi à prendre le titre aux Parisiens, il y a Montpellier, il y a Monaco, il y a Lille, puis il n'y a pas Lyon. Non. Comment ça se fait ? Est-ce qu'en fait, on ne nous survend pas Lyon depuis des années ?
Ça, certainement, on nous survend Lyon, mais aussi ce que dit Sébastien, c'est que le président Aulas, il a du mal de prendre une décision avec Juninho. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, et je pense que ça va être la mort du petit cheval. Je pense qu'à un moment, il doit intervenir. Je pense qu'il va devoir prendre ses responsabilités et dire, comme dit Florent tout à l'heure, je me suis trompé.
Mais
sinon, on va
prendre
le mur. Alors, s'il ne le fait pas. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il a mis les supporters dans ce même panier. Parce que Jean-Michel Aulas a aussi mis les supporters dans le même panier en disant que Juninho est intouchable. Donc, en fait.
Mais Juninho, il ira sur le banc. Il ira sur le banc de touche et après, il se passe quoi quand tu es sur le banc de touche ?
Tu te fais virer.
Soit tu réussis, soit tu te fais virer. Effectivement.
Donc, on doit attendre que Peter Bosz soit viré, que Juninho prenne l'équipe et que Juninho se fasse virer pour que ce club retrouve un peu de sérénité.
On va pas condamner Bosz tout de suite, parce que peut-être que ça va prendre, mais les choses sont très très mal parties. Et encore une fois, sa communication est totalement hallucinante. C'est-à-dire que pour se couper d'un vestiaire, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Ouais. Parce que là, l'histoire de la banderole, on va revenir sur cassez-vous, c'est quoi ?
Bougez-vous, cassez-vous.
Voilà. Le problème, c'est que quand ça va aussi loin, ça ne touche pas que les joueurs. Ça touche aussi les familles. C'est comme ça qu'on le veuille ou non. Et parce que parfois, ça peut aller loin. Ça peut aller un petit peu jusqu'aux insultes sur les réseaux sociaux, voire la violence. Et donc là, on l'avait vu avec Bruno Genesio, par exemple. Et donc là, les joueurs, ils ont des familles. Et leurs familles, ils en parlent aux joueurs. Et quand il y a l'entraîneur qui donne raison à des supporters qui sont potentiellement virulents ou violents, alors ça, on ne pardonne plus. Et moi, je vous dis, c'est ça. C'est que si jamais vous perdez contre Clermont, c'est une catastrophe, je pense que ça peut exploser.
Mais il va faire moins longtemps que Silvinho.
C'était quoi, cette match de Silvinho ?
Il faut prendre les paris.
Vous pensez que si jamais ça se passe mal dimanche, qu'on ne souhaite pas évidemment à l'Olympique Lyonnais face à Clermont, là, Jean-Michel Aulas, il va sortir comme le Real Dubois ? Ou est-ce que ça va continuer comme ça, d'une sorte
de flou artistique ? Il est obligé de sortir du bois maintenant. S'il laisse faire, ça va être une. Juninho, il dira rien. Il va laisser faire.
Il va pas le faire. Non, il y a la trêve internationale début septembre. Il va attendre la fin du mois. Et déjà, peut-être aussi la fin du mercato, parce qu'ils auront quand même des opportunités à gérer dans un sens ou dans l'autre.
Là, ils ont recruté Emerson, hein, international italien.
Il est prêté.
Il est prêté.
Il est prêté. Pour le moment, au niveau recrue, c'est zéro. Da Silva gratuit, Enrique gratuit.
Ils n'ont pas d'argent.
Ils n'ont pas un radis, ils ont vendu pour 32
moins,
millions.
On savait qu'ils n'avaient pas d'argent et ça se confirme sur le marché.
C'est pas ce que disait Jean-Michel Aulas.
Il y a des clubs qui n'avaient pas d'argent. Et bien, visiblement, ils trouvent des solutions.
Sébastien, Jean-Michel Aulas disait on n'a pas besoin de vendre pour acheter. Pour l'instant, ils n'achètent pas.
Il doit demander à Jean Lopez, il va l'aider. Est-ce que lui trouve des sous partout pour aider tout le monde, quoi.
Ces deux dernières années.
C'est Harry Potter, lui.
C'est en 2019, ils ont acheté pour 88 millions d'euros. En 2020, ils achètent pour 34 millions. Là, zéro. Mais ils avaient vendu pour plus à chaque fois. Et là, ils ont vendu seulement pour 32 millions. Et je pense que du coup, ils n'ont pas la marge.
Bon, on va quitter avec l'OL, donc il jouera contre Clermont dimanche à 13h. Hein. C'est pour sans doute la Chine, hein, qui veut voir ça.
Mais Clermont, ils veulent voir jouer Clermont, la Chine.
Clermont, ça joue très très bien, on l'a dit. On va parler vite fait quand même de Lille aussi, qui est pas beaucoup mieux que l'OL. Ça se passe pas très très bien. Humiliation samedi dernier avec Christophe Galtier, évidemment, qui est venu coller une rouste à son ancienne équipe. C'est souvent comme ça. Lille qui a quand même finalement globalement, à part Mike Maignan qui est parti sous marée, la même équipe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que ce qui semblait marcher avec Galtier, ça marche plus avec Jocelyn Gourvennec ?
Mais ça n'a rien à voir avec l'entraîneur, à mon avis.
Non, mais par contre, si je puis me permettre, parce que c'est que là vous touchez mon petit cœur de Lillois, j'assume. Il y a un moment, il faut arrêter aussi. Je vois que les supporters de Lille n'arrêtent pas de flinguer Monsieur Létan. Je signale quand même dans la situation que celui qui a mis ce club dans une situation pareille, dans un bordel pareil, c'est Gérard Lopez. Il faut quand même dire les choses. J'en reviens, c'est que maintenant, ils n'ont plus de thunes, parce que là aussi, ils sont dans les dettes, je ne raconte même pas, puisque l'argent des transferts, dont Osimhen et compagnie, on ne sait pas où est parti l'argent, et qu'en plus, M. Lopez a demandé des commissions au club, et donc c'est parti maintenant au tribunal, enfin, c'est un bordel sans nom.
Il a quand même pas racheté Bordeaux et l'argent de Lille.
Non, mais ça, c'est un autre dossier. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Ce qui se passe, c'est que Olivier Létan, il a une mission, et sa mission est de sortir garder en vie le club. Donc il a pas de thune. Le seul truc que je peux
il
lui reprocher,
il a quand même l'ambition à terme d'en gagner aussi.
Oui, mais bon, le seul truc que je peux lui reprocher, à terminer, c'est sur le plan sportif, qu'il
il a dû vendre des joueurs ou laisser partir des joueurs pour des raisons financières, on vient d'en parler. Je viens d'en parler, mais par contre, ce qui est terrible, c'est le choix de l'entraîneur. Monsieur Gourvennec, un énorme respect de Monsieur Gourvennec.
Mais à un moment, j'ai peur. Ça, quand vous commencez une phrase comme ça, Stéphane, c'est que derrière, il y a une quiche qui arrive.
Mais non, mais c'est-à-dire que la quiche, elle arrive, c'est qu'à un moment, on nous parle de Laurent Blanc, on nous parle d'un mec, on passe quand même derrière Galtier, ils sont champions de France. Et là, on nous ramène Monsieur Gourvennec, qui, quand on regarde bien son
CV, c'est Monsieur Galtier.
Non, non, je dis pas ça. Galtier s'est barré parce qu'il savait qu'il allait plus avoir de joueurs, que ça allait être compliqué. Monsieur Gourvennec, dans ce club, et je pense qu'il n'a pas l'âme de guerrier parce que la situation elle est compliquée. Hein. Tu dois reprendre un titre de champion avec une équipe qui est déforcée, et je pense que c'est compliqué. Et alors, cette gifle contre Galtier, contre Nice, les supporters sont déjà complètement, ils sont démontés. Et je trouve que c'est un peu sévère tout le monde, c'est un peu tôt.
C'est un peu tôt. Mais en gros, est-ce que Lille est en sur-régime l'an dernier ou est en sous-régime maintenant? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu l'œil du tigre?
Un peu les deux, mais l'année dernière, c'est normal.
Tu sais très bien que surtout le PSG aller chercher un titre aujourd'hui dans le championnat de France quand tu n'es pas le Paris Saint-Germain, cela relève un petit peu du miracle. Et donc, tu es porté par cet espoir fou quand tu es tout prêt. Et puis, tu vas chercher des victoires, tu vas chercher parfois des points. De manière, parce que tu as une énergie, parce que tu es dans un élan positif. Mais à un moment, quand il faut repartir en août... Sur la même énergie, bah tu ne l'as plus. C'est classique. Et c'est pour, encore une fois, Christophe Galtier, ça aurait été pareil.
Il gagne le trophée des champions, même si le PSG était loin d'avoir son équipe type.
Oui, sur un match.
Mais l'équipe C.
On est plus dans la configuration avec Lille champion l'an passé de l'exploit qu'avait réussi Montpellier en 2011, avec aussi le Paris Saint-Germain qui, l'arrivée du Qatar et donc sur 2011-2012.
Sur
reprenons les équipes du. Enfin, il n'y avait pas Neymar et Mbappé dans ce Paris Saint-Germain-là. On est plus quand même dans cette configuration d'une équipe portée par quelque chose d'exceptionnel sur l'espace d'une saison et d'aboutir finalement par une apothéose avec ce titre de champion de France que ce qui s'est produit en 2017 avec l'AS Monaco, où là on avait une équipe qui est quand même allée en demi-finale de Ligue des Champions avec des joueurs exceptionnels, déjà Mbappé, avec des
Bernardo Silva. Philippe, la différence, c'est que Montpellier, et ton analyse est très bonne, c'est que Montpellier, ils ont été champions et puis derrière, la vie a continué. Sauf qu'à Lille, ils se sont vus à un moment en disant, ça y est, nous on est un grand maintenant. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est que les supporters, ils sont convaincus d'être un top 3.
Mais non.
Sauf que,
ils sont pas stupides.
Et
là, on vient de leur mettre une gifle terrible parce que Galtier s'en va, parce que les joueurs s'en vont.
Les joueurs s'en vont, tu dis. Pour l'instant, c'est pas non plus la saignée.
Il y a juste Maignan, Soumaré et Luis Araujo.
Il faut pas sous-estimer.
Maignan, il a fait gagner
un paquet de points. Tout ça, on est d'accord.
Non, mais tu sais ce qui est terrible, c'est la mentalité, c'est que t'as l'impression 47 points, t'as l'impression que l'âme est partie, et ça c'est terrible. Moi qui suis supporter de ce club et j'y ai travaillé, t'as l'impression qu'il joue sans cœur.
Non mais Stéphane,
c'est fini.
Ça fait 3 matchs, Stéphane.
Ah mais ça se ressent, c'est terrible.
Ça fait 3 matchs dont le trophée des champions qu'ils ont gagné. Non mais de toute façon, si Galtier s'en va, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait plus rien faire, parce qu'il faut pas oublier une chose, il y a le trophée des champions, mais il y a surtout Ligue des Champions qui arrive. Et Lille en Ligue des Champions, ils n'ont jamais rien fait.
Ça donc, va être un carnage.
Y compris avec M. Galtier.
Exactement.
C'est vrai.
Ils vont devoir enchaîner tous les trois jours avec un effectif qui va être amoindri et qui risque de l'être d'ici le 31 août. Parce que s'il y a une bonne proposition pour Bamba ou pour Ikoné, ça m'étonnerait qu'il le retienne.
Renato Sanchez, il ne bougera pas, il est blessé.
Oui, ouais, mais Bamba, Ikoné, à mon avis, peut-être même les Turcs, il y en a peut-être un qui peut partir aussi. Donc ils vont se retrouver avec un effectif considérablement amoindri et avec un calendrier démentiel. Donc cette équipe de Lille, je vois pas comment ils vont s'en sortir. Alors est-ce que c'est la faute de est-ce que l'entraîneur sera sacrifié pour ça? Moi je crois pas que ça tienne.
Mais est-ce que
Lille
est dimensionné pour être top 3 chaque année? Non.
Non.
Non. Donc
bon, ces dernières années,
il y a
pas
eu ce titre qu'ils sont allés chercher. Bravo. Mais on n'attend pas que Lille soit de nouveau champion de France, cette
saison. T'as raison, mais par contre, Brel disait, faut pas jouer les riches quand on n'a pas les sous, et c'est ce qu'a fait Lille depuis de nombreuses années, c'est qu'on a donné des salaires de dingue à des joueurs à Lille. Mais écoutez, Fonti, il a accepté de diminuer son salaire de je sais pas combien pour pouvoir rester au club. On en est là, hein. On en est
On a lu que les primes de champion n'ont pas été versées, ça aussi, ça doit polluer un petit peu
Mais bien sûr que ça pollue le vestiaire.
Les joueurs, après un titre de champion de France, en général, ils sont récompensés d'une manière ou d'une autre, soit à travers un transfert, soit à travers des revalorisations salariales, etc. Et là, ce n'est pas le cas.
Ah oui. Et ça pèse. Ça pèse dans les pattes. Bon, on verra bien ce que va faire Lille. Ce soir, ils se déplacent à Saint-Etienne. Je vous rappelle, eux aussi, c'est un point pour le moment au classement général. Mine de rien, Paris a déjà 8 points d'avance sur Monaco.
Et sur Lille. Vous permettez juste une petite virgule. Parce que je n'ai pas trouvé ça très courtois. Et Dieu sait que j'ai un grand respect de M. Galtier. Et l'histoire de Bourak, je trouve ça un petit peu malsain. D'un attaquant qui a 34 ans et qui tout d'un coup maintenant, Galtier se dit, pourrait bien venir à Nice, alors que ça a été l'homme de la saison l'année passée. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un attaquant comme Bourak de 34 ans? Oui. Je trouve que la manière...
Il dit qu'il veut l'expérience, Galtier.
Il a besoin, en revanche, de dire que le joueur l'appelle pour venir. C'est pas très élégant.
Je trouve que c'est pas
non,
élégant.
Pas trop. Voilà. Pas trop. Bon, on va faire un petit point, tiens, sur la Ligue 2 avec Baptiste Durieux, parce que depuis 19h, on joue la 5e journée. Je sais que Sébastien Tarrago, il trépigne, il veut savoir un peu où on en est.
Alors, on n'arrêtera jamais.
Baptiste.
Bonsoir à tous. Demi-heure de jeu dépassée sur tous les terrains. 0-0 entre Amiens et Sochaux. Caen qui mène 1-0 face à Nancy. 0-0 entre Dunkerque et Nîmes. Grenoble mène 1-0 face à Quevilly-Rouen. 0-0 également entre Le Havre et Niort. Entre Pau et Bastia. Et un partout entre Valenciennes et Rodez.
Et on rappelle que cet après-midi, Toulouse a battu Dijon à Dijon. 4-2. Ça sent pas bon pour David Linares, le coach qui, à mon avis, pas que le mien, devrait sauter dans les heures qui viennent. Et Toulouse qui a repris la tête provisoirement.
Philippe Montagnier, bravo.
La tête du championnat de Ligue 2. Baptiste, tant qu'on y est, quelques messages peut-être sur la page Facebook, compte Twitter de on refait le match.
Il n'y en a que pour Mbappé, Florian.
Ah bah oui, évidemment.
Avec des analyses qui sont assez justes. Romain nous dit évidemment qu'Mbappé veut partir et soyons déjà heureux qu'il soit encore là. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le PSG, c'est lui qui est le plus décisif, c'est lui qui joue le plus de matchs et Paris ne lui rend pas bien. Il devrait gagner plus que tout le monde, être l'égérie principale du PSG, mais non, Paris est un club politique qui pense à Neymar et Messi avant de penser que dans ses rangs se trouve le futur meilleur joueur du monde. Ludo nous dit, jusqu'à preuve du contraire, Mbappé est décisif, il a la bonne attitude sur le terrain, n'a rien fait qui mériterait des critiques. Force est de constater qu'il respecte son contrat et n'est pas dans l'obligation non plus de dire ce qu'il a dans la tête publiquement. Le Real fait moins rêver cette année, mais ça reste le Real, un club avec un grand C bien mieux adapté à Mbappé qui devrait filer le plus vite possible. Sébastien aussi nous dit, ce serait embêtant que le PSG laisse échapper les deux futurs stars de la décennie à venir, Mbappé et Haaland, sportivement comme commercialement, pardon. Les papistars c'est bien, mais la vraie force d'un club c'est de garder et de recruter les meilleures pépites. Et petite dernière info, sachez également que sur les réseaux sociaux, Mbappé a été très brièvement aperçu sur le banc en train de faire la moue après avoir été remplacé en fin de match hier. Et c'est suffisant pour faire le bonheur de nombreux supporters étrangers qui ont lancé un hashtag entre guillemets libérer Mbappé.
Ah, le bonheur des images arrêtées. Merci Baptiste. Et pour citer Jacques Brel comme Stéphane Powell, on a quand même envie de dire à Kylian, ne me quitte pas, reste encore un petit peu.
RTL, on refait le match.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle saison de l'heure du crime. Nouveaux horaires, nouveaux décors, mais encore plus d'histoires inédites, de mystères, de révélations et de témoins clés. L'enquête comme si vous y étiez.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard. C'est désormais de 14h30 à 15h30 sur RTL.
À lundi.
Papillomavirus, c'est beau, non ? Ça sonne comme coquelicot, myrtille ou mésange. Pourtant, les infections à papillomavirus peuvent être responsables chaque année d'environ 6300 cancers. Vivre avec une infection liée à un papillomavirus à haut risque cancérigène, c'est prendre le risque qu'il évolue en cancer à plus ou moins longue échéance. Un professionnel de santé peut vous renseigner sur les moyens de prévention et traitements existants.
Le papillomavirus n'est pas un virus de plus sans conséquences. Informez-vous avec le soutien de MSD.
Leclerc.
Oh, j'adore la rentrée. Un élève, 4 pages de fourniture.
M'en parlez pas, j'ai la même liste. Heureusement, il y a plein de promos pendant l'opération rentrée.
Ah bon ?
Regardez, 45% de réduction sur le lot de 300 feuilles A4 de la marque Esquisse de sélection d'experts. 1,04€ au lieu d'€1,90. Et fabriqué en France.
Oh, vous êtes un pro, vous. Je vais vous suivre. Allez, plus que 200 trucs à trouver.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 3 août au 4 septembre. Modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match jusqu'à 20h avec toujours Philippe Sanfourche, Stéphane Powels, Xavier Barret et Sébastien Tarrago. Ça n'a pas été l'été des Dédé. Dédé Gignac a connu la galère avec l'équipe de France Olympique. Et Dédé, Didier Deschamps, lui a vécu sa pire compétition avec les Bleus. Élimination en 8e face à la Suisse. Alors, le sélectionneur a fait son comeback dans les médias avec une longue interview vendredi au journal L'Équipe. Ce qu'il en ressort déjà, c'est que Deschamps assume cet échec. Mais pour autant, il ne donne pas non plus vraiment d'explications. Enfin, quelques bribes comme on a
pas eu notre solidité défensive habituelle. Bon, ça, on avait remarqué, Didier. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous expliquer dans les détails ses raisons à cet euro raté, messieurs ?
Bah, déjà, moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine contradiction. Je vais commencer par le négatif, parce que globalement, je trouve que sur ses explications, et non pas ses excuses, mais sur les explications, même si on a toujours envie de poser un problème, de dire c'est pour ça, machin, c'est toujours une addition de petites choses qui font que c'est le haut niveau. Et sur son analyse globale de raisons pour lesquelles t'en arrives là, je trouve qu'à 90%, c'est une lecture d'un homme intelligent et avec l'expérience qu'il a, et je suis à peu près d'accord sur tout. Maintenant, là où, en termes de communication, je trouve qu'il y a une forme de contradiction, c'est que il débute clairement comme doit débuter tout entraîneur dans cette situation-là en disant voilà, moi je suis conscient de mes responsabilités, je suis l'homme à la tête de cette équipe et j'assume et je suis le seul responsable. Sauf que le problème c'est que dès qu'on le confronte dans l'entretien à une question particulière, il commence par répondre et puis tout de suite il dit mais bon quand même, on menait 3-1 à 10 minutes de la fin.
Ça, c'est vrai que ça revient souvent ça.
En gros, ouais. Même s'il le dira jamais, on menait 3 à 10 minutes de la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire était là et que c'est les joueurs qui l'ont planté. Donc il est le premier responsable. Oui, je suis le premier responsable.
Non, je
suis le seul responsable. Mais enfin, les joueurs, ils m'ont quand même mis dedans. Parce que 3-1 est à la 80e. Donc ça, c'est le petit truc qui m'a gêné dans le cours de l'entretien.
Oui, mais tu préférais qu'il fasse comme Peter Bosch, qu'il allume ses joueurs? Non, est toujours très fort dans la communication, justement, pour ne se couper de personne, pour ménager la chèvre et le chou, et là, il le fait encore parfaitement, même si on sent qu'il est un peu énervé, toutes les quatre questions, ça revient, effectivement, on menait 3-1 à la 80e. Donc oui, maintenant, je pense qu'il a quand même toute la latitude là, pour changer éventuellement un certain nombre de joueurs, d'ailleurs, il le dit aussi, il n'y aura pas 26 parce qu'il y en avait trop. Donc on verra combien il y en a dans sa liste, 22, 23, 24.
Personne n'est obligé à en prendre 26. Hein.
Oui, bon, comme l'UEFA avait dit, c'est 26, il y est allé. Effectivement, Luis Enrique n'en a pris que 24. Mais là, il y a aussi, je pense, l'impératif de trancher, de couper vis-à-vis de ce qu'il a fait jusqu'à présent, à savoir toujours garder le même groupe. Vu qu'il y a eu un échec, il peut reprendre la main en changeant certains noms. Et c'est ça qu'on attend jeudi.
On verra ça jeudi avec cette liste. On va en parler. On va revenir sur cette histoire de 3-1 à la 80e, parce que j'ai l'impression que c'est son gimmick. C'est son moi président de François Hollande. On menait 3-1 à la 80e. Il dit quand même on n'a pas eu cette capacité à ce moment-là à dire stop, on ferme. Comment vous l'expliquez ça? C'est-à-dire que Dédé n'a même plus l'autorité. Normalement, s'il dit on ferme, on doit fermer, non?
Non, mais Florence, c'est quand même terrible ce que vous faites. Parce que vous avez là un sélectionneur.
C'est pas terrible, je commente son interview.
Vous êtes français, je suis belge. Et j'ai un regard admiratif de Didier Deschamps. Ça veut dire que Didier Deschamps, il est champion du monde. Et ici, il se rate sur une rencontre. Et en plus de ça.
Non. Parce que je peux vous. C'est raté sur une compétition.
Bon, compétition. Ok, je veux bien l'entendre. Moi, je vais vous juste donner un exemple. Martinez, il s'est planté avec les Belges et tout est bien, tout est beau. Il n'assume de rien.
Là, on est pas sur Bel Air.
Non, laissez-moi finir. On a un sélectionnaire qui n'assume de rien et que tout le monde voudrait qu'il parte. On a Didier Deschamps qui dit je me suis trompé aussi. J'ai fait des erreurs.
Il le dit, mais après concrètement. Qu'est-ce qu'il aurait refait différemment?
J'ai quand même le droit de défendre Didier Deschamps en pensant.
On n'est pas dans l'attaque ou la défense.
Non, mais en pensant qu'il a raison que certains joueurs n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire dans l'attaque, qui n'ont pas pris leurs responsabilités, notamment Pogba où à un moment il perd des ballons qui font très mal malgré son but extraordinaire. Moi, je pense que Didier Deschamps, cette interview, moi, j'ai vu que des mecs s'insurgeaient et qui étaient scandalisés. Moi, cette interview, elle m'a pas du tout scandalisé. Je pense qu'il dit les choses et même sur Giroud, il dit les choses.
Ah bah non, sur Giroud, il dit les choses, oui. Sur les autres, non.
Sur Benzema, il dit quelque chose que Philippe s'en fout, je vais pas me contredire. Il dit, si je l'avais pris là sur le petit tournoi d'avant, c'est pas pour ça que sur une période de 3 semaines, ça aurait été bénéfique pour sa préparation.
Ouais, il dit ça et puis après, il dit quand même que c'est pas idéal de changer une équipe juste avant une compétition.
Moi,
il y a quelques contradictions. Hein.
Je reste convaincu que Didier Deschamps, il est sélectionneur, c'est compliqué dans une interview au journal L'Équipe, et je pense qu'il parle avec ses tripes, et forcément, c'est de bonne guerre, qu'il a un peu mal au derrière. Mais c'est normal qu'il a de l'ego, on a tous de l'ego, c'est normal qu'il y ait un peu mal au derrière, il va pas tout prendre sur sa tête, comme il va pas prendre toute la chape de plomb, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas fait leur job.
Mais il est dans un exercice de communication, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'attends pas quoi que ce soit, mais il y a des contradictions toutes les quatre phrases. Après, donc concrètement, il y a rien à en retenir, sauf deux choses très importantes quand même. C'est un, on va revenir à la méthode du béton.
Oui, c'est clair.
Donc, terminer
le cercle. Ça sera pas la ligne. Hein.
J'ai de toute façon, vous le critiquez quand il bétonne. Quand il bétonne pas, vous le critiquez quand même. Quand il bétonne, c'est pas bon.
Tu m'as écouté là ? Non, je t'ai pas écouté.
Stéphane, laissez parler Sébastien.
Donc, il dit ça. Moi, j'essaye pas, je donne pas mon avis là. Je vois ce qu'il dit. Il dit, c'est terminé les histoires, parce que j'ai fait le système à 3 derrière pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions devant, etc., etc. En gros, il le dit pas, mais en gros, c'était une erreur. Même si c'est la faute des joueurs qui n'ont pas voulu défendre à 80e. Bon, bref. Mais, donc, on va revenir au béton. 4-3-3. Hop, terminé. On n'en parle plus de cette histoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Giroud. Alors là, Giroud, il lui en veut. Et le staff en veut à Giroud depuis un moment et depuis ses déclarations.
La déclaration avec Mbappé, c'est ça ?
Absolument, oui, critiquer Kylian Mbappé avant l'Euro et puis aussi une attitude générale. Mais enfin, il a bon dos, Giroud. Franchement, si Giroud,
c'est pas cause de lui qu'on a perdu l'Euro.
Si Giroud est le responsable de l'échec de l'Euro, là.
Mais c'est pas ce qu'il dit.
Mais enfin bon, ça revient à ça. Parce que c'est le seul qui prend dans l'interview. Parce que tous les autres, quelque part, ils ménagent. Ils ménagent
Pogba. Parce que si Giroud va plus le reprendre.
Ils ménagent comment ? Ils ménagent tout le monde. Parce que, évidemment, il y a un avenir. Il y a un avenir à écrire. Et donc, il a besoin d'eux.
Lui, il Giroud, se dit c'est un peu que le Marcello de l'équipe de France.
Il peut s'en passer. Donc, boum, on tape sur Giroud. Franchement, je trouve ça un peu facile.
Et puis surtout, on met en avant des arguments sur le fait qu'on peut plus lui faire confiance à un instant T parce que il arrive et qu'il pourra pas rattraper quoi qu'il arrive. C'est-à-dire la situation de Giroud.
Ça fait
deux ans et demi ou trois ans qu'il est dans cette situation.
Et ça l'a jamais empêché de mettre des buts.
Et ça n'a jamais empêché surtout le sélectionneur de s'en servir comme d'un moteur et d'y parvenir. La plupart du temps, c'est qu'à un moment donné, qu'il estime que aujourd'hui ça n'est plus possible parce que ça fait trop longtemps, parce que Giroud il a un an de plus, parce que ok, mais là, nous servir ce discours là, on sait très bien que c'est ce qu'il nous disait l'inverse il y a six mois.
Puis alors, le mépris, et
puis là, c'est malgré tout, il va jouer au Milan, c'est
le mépris par rapport aux deux buts inscrits par Olivier Giroud lors du dernier match de préparation. Je trouve ça
il met
incroyable.
Deux buts
en gros, il met deux buts en fin de match, c'était facile quoi. Bien sûr qu'il fait une entrée très médiocre ce jour-là, Olivier Giroud. Bien sûr, mais il met deux buts. Et dans le football, pourquoi les attaquants sont mieux payés que les autres ? Parce que c'est le plus dur de marquer des buts. Donc à un moment, tu peux pas, comme tu le dis, avoir soulevé les qualités d'Olivier Giroud, à savoir son efficacité, son état d'esprit, etc., pendant trois ans. Et dire l'inverse aujourd'hui, je trouve ça... Franchement, taper sur Giroud, c'est trop facile. Même si Giroud a des torts. Hein.
Alors, mais quelque chose qui m'interpelle, c'est que tout à l'heure, on parlait de bétonnage, de bétonner. Donc maintenant, il nous annonce qu'il va de retour jouer comme ça. Mais il faut savoir, j'ai une question à vous demander, à vous poser, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Quand il bétonne, on le flingue. Quand il joue offensif et qu'il se trompe, on le flingue. On n'est jamais content, alors, en fait, d'utiliser des chances.
C'est la nature même du poste de sélectionneur.
Mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? On l'encourage ? Est-ce que c'est une interview, on doit lui fracasser pour ça ?
Pourquoi ? Je comprends pas, en fait.
Je pose la question. Ma question, je trouve qu'on est très sévère avec Didier Deschamps.
Je parle de l'opinion de ce que j'ai vu hier.
On peut être très sévère quand la France est sortie en huitième de finale de l'Euro, quand même, non ?
Lui-même l'a été après l'Euro.
Mais justement, il fait son mea culpa, il dit « je me suis trompé ».
Tu sais, Didier Deschamps et l'ensemble de son staff, entre le moment où l'équipe de France est éliminée et finalement, l'entrevue avec Noël Le Graët qui débouche sur le fait qu'on va repartir ensemble, il y a une période pendant laquelle tout le monde se pose réellement la question de savoir est-ce qu'on va rester en place, hein ? Il y a des sélectionneurs qui ont sauté pour moins que ça. Ouais. Alors certes, ils n'avaient pas le palmarès et l'expérience, mais il y a eu une remise en question globale de qu'est-ce qui s'est passé.
Joachim Löw veut rester.
Laurent Blanc, il sort après l'Euro
après avoir perdu contre l'Espagne
qui marchait sur l'Europe en quart de finale, et il sort pour moins que ça. Alors il y avait plein d'autres implications par rapport à la personnalité, les rapports avec Noël Le Graët, on est d'accord, mais factuellement, par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro, l'équipe de France se fait championne du monde, se fait sortir en huitième par la Suisse.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que Laurent Blanc, on a été pour le coup cruel, je trouve, parfois avec lui, notamment parce que ce jour-là, contre l'Espagne, en quart de finale de l'Euro 2012, il invente
un système.
Juste d'avoir mis deux arrières droits, au poste d'arrière droit et un au poste de milieu droit. Et alors là, ça a été la lie. Et Didier Deschamps, il a inventé des choses à chaque match. Moi, je trouve au contraire, et d'ailleurs, je comprends quelque part qu'il bénéficie
D'un capital.
Oui, d'un capital lié à son histoire récente.
Et son palmarès.
Et je trouve qu'il a globalement été épargné par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro. Ce qui s'est passé à l'Euro, c'est un truc de fou. Chaque match, tu changes de système. Les joueurs, c'était un bazar pas possible. Organisation, bazar pas possible. Au sein du staff, c'était compliqué.
Mais il y avait un facteur malchance. Ce qui arrive. Les blessures sur les deux latéraux, à gauche, à droite, c'est compliqué. L'arrière gauche, l'arrière droite, enfin bon, c'est difficile.
Quand par exemple, tu prends un joueur, quand à gauche, tu n'as plus de joueur, mais que tu en as un dans ton effectif qui peut occuper ce poste, qui s'appelle Léo Dubois.
Qui est en tribune, qui voit des très bons matchs.
Le gars, tu le fais jamais jouer. Attention, moi je pense pas que Léo Dubois il puisse jouer en équipe de France. Mais
au moins,
tu l'as pris dans ta liste. Fais-le jouer.
Bien sûr.
Ou alors, ça veut dire que tu l'as pris.
Je dis pas qu'il a fait d'erreurs sportives.
Et plutôt que de faire ça pour le 8e de finale contre la Suisse, il improvise une défense à 3 alors qu'elle avait déjà été alignée lors de précédents matchs. Ça avait été à chaque fois une foirade. Avec ouais,
deux fois sur des matchs Banania, un an et demi.
Oui, mais ça n'avait pas fonctionné quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord.
On a tous le droit, Xavier, de se planter une fois. Ça fait mal, la défense.
Absolument. C'est pour ça qu'il est encore là.
Il s'est planté sur cette défense à 3. Il l'a essayé. C'était l'automne d'avant. Il l'avait fait deux fois lors des matchs de prépa, enfin lors des matchs de qualif, mais bon, et ça n'avait pas fonctionné. On voyait très bien que ça marchait pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en aperçoit au bout de 25 minutes. Clément Lenglet, en plus, n'avait pas de temps de jeu, donc il rentre dans la compétition, mais il avait aucun repère.
Oui, pourquoi encore donc, une fois? Encore, pardon, mais moi c'est ma marotte, mais tout découle du retour de Karim Benzema.
Complètement.
Parce que si Clément Lenglet a zéro minute de temps de jeu entre la fin de sa saison au FC Barcelone et ce match-là, c'est notamment parce que pendant les matchs de préparation, Didier Deschamps veut essayer sa nouvelle équipe qu'il ne connaît pas par la force des choses. Karim Benzema arrive, vous vous rendez compte du bouleversement que cela implique. Et donc, du coup, il ne fait pas de rotation. Et Clément Lenglet a zéro minute de temps de jeu pendant les matchs de préparation.
Sébastien, justement, on va parler.
C'est une catastrophe.
Le retour de Benzema, il en parle quand même, évidemment. Il dit beaucoup de bien de Benzema en équipe de France, Didier Deschamps, qu'il a été très bien l'homme. Il parle de ce retour. Il dit que même si Giroud avait été performant lors du rassemblement de mars, il aurait rappelé le madrilène. Alors pourquoi il ne l'a pas rappelé dès mars, sachant que déjà Giroud ne jouait plus à Chelsea avec l'arrivée de Tuchel en début de
parce qu'il y avait trois matchs en 10 jours, il y avait deux déplacements, que c'était absolument pas les bonnes conditions pour lancer un joueur, et que mine de rien, il y avait quand même.
C'était mieux juste avant l'Euro.
Hein?
C'était mieux juste avant l'Euro,
non,
Philippe?
Oui, non, c'est blessé d'ailleurs. C'est sa justification qui a été toujours celle qu'il a avancée.
mais ça tient pas, c'est par rapport à ce qu'il dit.
Même pas publiquement, parce qu'il n'est jamais rentré dans
publiquement,
les détails.
Il a jamais rien dit.
Mais on va dire que dans une sphère un peu plus privée, c'est ce qu'il dit. Après, j'ai envie de dire que c'est même mars, c'est trop tard. C'est-à-dire que Karim Benzema, ça fait 5 ans que ça existe, cette histoire. Alors que au départ, ça soit impossible et qu'après, ça puisse commencer à germer dans sa tête. Ça, en fait, ce qu'on lui reproche à Didier Deschamps, quand tu dis ouais, vous le défoncez parce que avant c'était la bétonnade, c'est pas le style. C'est pas le style de jeu qu'il veut mettre en place. C'est que à une époque, on reprochait presque à Didier Deschamps d'être trop linéaire, trop prévisible, que les changements se fassent trop sur la longueur. Et là, en fait, d'un seul coup, on nous l'a transformé.
C'est-à-dire il a renié tout ce qu'il est.
Exactement.
Donc, tu pas dire, tu
si Benzema, ça c'est le gainage. Le gainage est très mauvais. Hein.
Philippe, juste pour te taquiner un peu, mais pour avoir ta réponse, tu es en train de me dire que si Benzema ne serait pas venu, eh bien, il n'aurait pas changé son schéma tactique et l'équipe de France aurait mieux joué.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui fait le constat qu'il a fini par être convaincu. Alors, est-ce que l'environnement l'a convaincu ou est-ce que lui-même, il a voulu apporter quelque chose, qu'il fallait aller vers quelque chose avec un allant offensif, avec un équilibre différent.
Il a pensé, c'est surtout qu'il a pensé que sans changer, sans rappeler Benzema, il est allé dans le mur à l'Euro.
Bah, il y est allé quand même.
Oui. Mais lui, à un moment, a eu la conviction, et les relations Mbappé-Griezmann ont beaucoup joué là-dedans, parce que ça se passait mal, depuis longtemps d'ailleurs.
Donc c'était Karim le grand frère, quoi.
Non, mais il a pensé que créer de nouveaux équilibres pouvait apporter un élan à l'équipe de France. Ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait pu fonctionner, pourquoi pas.
Bien sûr.
En tout cas, lui, il a eu la conviction que sans ce changement-là, il allait dans le mur. Il y est allé quand même, oui, c'est vrai. Mais il a eu cette conviction-là. Et du coup, il a été obligé, effectivement, de renier un peu ce qu'il est. Parce qu'il s'est retrouvé... Il est parti d'une situation compliquée à gérer, à savoir Griezmann-Mbappé. C'est un truc compliqué depuis plusieurs mois. Et ben finalement, il s'est retrouvé avec encore davantage de trucs compliqués à gérer.
Bon. Et parce que l'émotionnel est rentré aussi dans le truc. C'est-à-dire que si c'est pas Karim Benzema, c'est peut-être plus facile aussi par rapport à l'intériorité du dossier. C'est peut-être plus facile de le rappeler avant. Ça ne crée pas les. On n'est pas sur l'émotion et sur tout ce que représente cette chose-là. Parce que là, il a des choses à régler en interne, Didier Deschamps. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de cadres. Je pense à commencer par son capitaine, Hugo Lloris, qu'on pas spécialement aimé la façon dont tout ça s'est fait. Il n'y a pas eu tout ça, c'est pas fait en confiance par rapport à.
On va laisser la suite parce qu'on parle pas de la suite.
On va en parler de la suite. On va faire une petite pause avant la fin de l'émission et puis on va parler de la liste qui sera annoncée jeudi. Et le vôtre, c'est énorme.
Pour le mien, non.
Si, quand même. À tout de suite pour On refait le match RTL.
RTL, on refait le match.
Ok, fini de le faire à l'impro. Cette année, la rentrée, on va la prendre du bon pied. Et pour ça, on file chez Centre-Accord.
Oui, parce que si on doit retenir une chose de l'année passée, c'est qu'être bien chez soi, c'est essentiel.
Alors rendez-vous chez Centre-Accord. En ce moment, il y a des offres exceptionnelles pour s'équiper pour la rentrée. Linge de lit, mobilier, déco, art de la table, rangement.
Centre-Accord, c'est bien plus que de la déco. À des prix de folie.
J'adore aller chez Centre-Accord.
Trouvez votre magasin le plus proche sur centreaccord.com.
Les voix du crime.
Tous les week-ends à 13h, dans Les voix du crime, RTL vous propose de découvrir son podcast exclusif dédié aux grandes affaires criminelles.
Ils ou elles sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, suspects ou coupables. Ce sont les voix du crime.
Ces témoins clés se confient au micro de nos experts judiciaires RTL et reviennent sur ces affaires qui ont marqué la France.
Les voix du crime, c'est chaque week-end de 13h à 14h sur RTL.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h sur RTL avec Philippe Sanfourche, Stéphane Powell, Xavier Barré et Sébastien Tarrago. On va se projeter quand même sur les bleus. Donc jeudi, on aura la fameuse liste, la première, qui est une liste importante parce que d'habitude, ces matchs-là, c'est les matchs amicaux un petit peu en bois qui sont un petit peu compliqués pour le sélectionneur parce que les joueurs sont pas en état de forme, les champions doivent en prendre. Mais c'est des matchs qui comptent. C'est de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar qui est en 2022.
Vous êtes inquiet?
Je ne suis pas particulièrement inquiet.
Il faut finir au moins les trois premiers. Si tu n'y es pas, t'as un rattrapage éventuel.
Non, mais au-delà de ça,
avec la Ligue des Nations, t'as déjà
ça va être très compliqué. C'est une farce.
Ça taquine, mais enfin, d'un autre côté, on devait gagner l'euro, puis on l'a pas gagné. Cette liste qui s'annonce jeudi, est-ce que, bon, je vous demande pas s'il y aura des surprises, parce que c'est Didier Deschamps, il n'y en a pas forcément, quoique, Benzema. Est-ce que déjà, bon, est-ce qu'il part des surprises dans la liste de Didier Deschamps?
Surprise ou nouveauté?
Surprise, c'est nouveauté pour Didier Deschamps. C'est sûr qu'il va pas faire revenir à Dirami.
On l'a dit, on en a en partie soulevé le problème. C'est autour du cas Giroud.
Oui, donc ça. Alors,
est-ce qu'on reverra
Je reformule ma question. Pour qui ça sent le pâté?
Giroud.
À commencer par Olivier Giroud.
Ouais. Si, après avoir lu ce qu'on a lu, plus les informations qu'on a depuis 3 mois, si Olivier Giroud revient, mais. Peut-être, si Olivier Giroud revient, c'est incroyable. Alors même que maintenant, il joue à Milan, dans les matchs de préparation, il va jouer
beaucoup. Il va jouer beaucoup en plus.
C'est-à-dire qu'on l'a appelé quand il ne jouait pas, mais quand il va jouer, on ne l'appellera plus. Bon, bref.
J'ai envie de vous sortir un truc qui est impossible, mais tout est possible avec eux. Gignac.
Non.
Il a montré l'exemple. Il a porté le maillot, il a fait dans un contexte très compliqué. Est-ce que Gignac ne pourrait pas remplacer Giroud?
Non.
Un coup terrible de Dédé.
Là, vous m'avez mis une. Non, mais. Pas vu venir celle-là, Stéphane.
Je ne l'imagine pas.
Mais il a été exemplaire.
Dans ce cas-là, il faut se dire à la place de qui?
Eto, Giroud. J. Savanier. Non.
Non, mais attends, ils étaient 26 à l'Euro. Là, je ne sais pas comment il va en appeler.
Giroud vient pas et il le prend.
Qui d'autre?
Parce qu'il sait qu'il met des buts. Je ne sais pas, je pose la question.
Est-ce qu'il va en profiter, Didier Deschamps, pour faire un peu de nettoyage? Est-ce que, genre, Sissoko, par exemple, le guerrier, bon, il y a un moment où.
Sissoko, il est toujours venu, reparti, revenu.
Oui, enfin, là, il peut repartir définitivement.
On n'en parlera même pas. Non, mais il y a une vraie question sur. Le problème, c'est les joueurs majeurs aujourd'hui. Tu avais une équipe, tu connaissais la défense. Pavard à droite, Varane, Kimpembe. À gauche, notre ami Hernandez. Déjà, ils sont souvent blessés. Est-ce qu'ils sont en état de jouer, notamment les.
Pavard est blessé là.
Oui. Et puis, moi, je pense qu'il y a un cas très important, c'est Hugo Lloris.
C'est-à-dire que le brassard
Non, mais c'est-à-dire que Hugo Lloris, il est proche d'Olivier Giroud, proche de 2-3 personnes qui potentiellement ne seront pas là.
D'accord. Donner des noms.
Non, mais déjà Olivier Giroud.
Deux, trois personnes.
Léo Dubois, par exemple.
D'accord, ok.
Je sais pas s'il sera là. Comme ça, c'est pas.
Il aura peut-être des places pour le match,
comme alors. Mais sauf que.
C'est à Lyon.
il est isolé, Hugo Lloris. D'ailleurs, on lui a reproché pendant l'Euro un petit peu son attitude, en tout cas d'être un peu isolé.
Mais c'est son tempérament.
Des plus jeunes et tout. Oui, mais là, s'il se retrouve tout seul, ça va être un souci.
Mais est-ce que c'est l'occasion peut-être d'enlever le brassard à Hugo Lloris, qui est jamais évident, pour le donner à quelqu'un d'autre?
T'as pas le droit.
Tu peux pas. Il fait ce qu'il veut, Didier Deschamps.
Tu lui fais le jour où il est plus là. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, Hugo Lloris est en difficulté sur le plan sportif?
Parce qu'il y a meilleur.
À quel point que tu changes ça?
On sait que derrière Mandanda, c'est pas foufou depuis le début de la saison.
Tu vas pas installer Maignan là? C'est pas possible.
Pourquoi pas?
Tu veux mettre Maignan titulaire en équipe de France?
Non, je dis que s'il doit prendre une décision, il faut le faire maintenant. Tu vas pas le faire dans deux mois.
Moi, je pense que Lloris reste le gardien de l'équipe de France.
Bien sûr.
Mais en tout cas, il y a des rapports à renouer, quoi, entre les gens, à tisser, quoi. Entre les gens dans
refédérer.
Un
refédérer.
Et ouais, mais
quoi,
c'est pas
organiser une sortie pizza ou quoi?
C'est pas simple à un moment.
Et Macumba Night, c'est un truc comme ça.
Mais ouais, mais à un moment, si par exemple. Vous savez, c'est long pour les joueurs quand tu passes 10, 12 jours à Clairefontaine ou dans les avions et tout ça. Et plus tu vieillis, plus c'est long. Les joueurs te le racontent, ils ne se plaignent pas, c'est pas la question et on va pas les plaindre.
Il y a de la fatigue mentale.
Mais c'est logique, c'est humain. Et quand tu vas là-bas à Clairefontaine et que tu te dis ah ouais mais j'ai plus un pote, j'ai plus un copain, je vieillis, j'ai 35 ans, il y a les gamins qui déboulent, on a un décalage de génération.
Enfin, ce
qui
est humain, c'est la vie. France,
mais oui, mais
non, ouais, mais
d'accord,
raison,
mais dans ce cas-là on parle plus de rien, c'est humain encore une fois.
Mais je comprends.
Si toi tu vas te retrouver en décalage parfois avec des gamins de 25 ans aujourd'hui dans notre métier, c'est normal.
Sébastien, je l'entends, mais c'est le rôle de Didier Deschamps de le sentir et il doit sans doute le savoir et d'agir en conséquence. Parce qu'on nous dit après le Mondial 2018, on dit prime au groupe champion du monde, donc on ne change rien, c'est normal. Mais là quand même, on a été éliminé en 8e, normalement.
Ah mais ils sont pas vieux, hein.
Oui, mais il faudrait quand même essayer de régénérer un petit peu, changer des choses. Parce que si vous repartez avec le même groupe, c'est quand même un peu dangereux, non?
C'était un groupe très jeune, hein. C'était une des équipes les plus jeunes, l'équipe de France. Donc,
ça veut dire qu'on change rien. On repart comme
c'est quoi. L'occasion de changer, évidemment. Mais après, il faut pas se tromper dans ces changements. Vous parlez du gardien de but, vous virez Lloris, votre capitaine, votre gardien, pour mettre, compliqué. Alors pourquoi pas Maignan? Mais Maignan qui vient de changer de club. Alors effectivement, il est très bon, il n'y a aucun problème, mais il vient de changer de club.
Maignan, il a montré quoi? Ne serait-ce que dans une compétition comme la Ligue des Champions.
Bien sûr.
C'est un très bon joueur, mais c'est personne.
Donc je pense que c'est pas le moment.
Là, on vient de passer 20 minutes à énumérer toutes les questions qui pouvaient poser problème par rapport à Didier Deschamps. Mais encore une fois, comme je l'ai dit en préambule, il y a aussi beaucoup de constats qui sont réels. C'est-à-dire qu'effectivement, ils étaient dans un groupe qui était délirant, avec des équipes qui jouaient chez elles, qu'au niveau de la préparation physique, ils ont eu 20 jours, là où avant ils en avaient 24 ou 27, et que finalement, il y a eu aussi un côté physique, et que malgré cela, il y a quand même eu des phases de jeu, que ce soit contre l'Allemagne, contre le Portugal, ou même contre la Suisse quand ils reviennent, où on voit que cette équipe-là, quand elle arrive par séquence, malheureusement trop courte, mais quand elle arrive à jouer ensemble, pendant 20 minutes, il n'y a pas une équipe au monde qui peut la contester, c'est une évidence. Il y a une somme de talent qui est monumentale, donc on ne va pas non plus tout balayer.
Non, mais je ne dis pas ça, Philippe, je dis juste
entre
tout changer et rien changer, il y a quand même entre gris clair et gris foncé, comme dirait Jean-Jacques Goldman.
Éventuellement, au poste de latéraux, vous pouvez éventuellement discuter, vous pourriez, mais je ne pense pas que ce soit le cas, mais discuter de Kimpembe, pourquoi pas. Si jamais Koundé allait dans un très grand club, comme Chelsea, le Real et tout, pourquoi pas, moi j'y crois. Mais sinon, vous allez enlever N'Golo Kanté, vous allez enlever Pogba, vous allez enlever Benzema que vous venez de rappeler, Griezmann, Mbappé, vous faites quoi? Donc, et vous avez des très bons joueurs, c'est ça le souci. Vous avez échoué avec des très très bons joueurs et qui sont pas vieux.
Il faut recréer
à part Benzema,
le lien, cet esprit
d'équipe
qui a fait leur force en 2018 en Russie et qui a manqué effectivement lors du dernier Euro avec ce contexte particulier, hein, parce qu'effectivement ils pouvaient même pas voir leur famille après les matchs, les gars, donc forcément.
Ouais, mais c'était pas les seuls.
Oui, c'était pas les seuls, mais bon, ça leur a peut-être plus pesé qu'à d'autres.
Donc j'étais en train de me dire que jeudi la liste de Didier Deschamps, finalement on la connaît déjà, c'est la liste des 26 qui sont partis à l'Euro. À part Pavard qui est blessé.
Des Rami, des Mendy, Dembélé qui est parti trop tôt. Ces équilibres de groupe, finalement, ça se joue parfois à pas grand-chose.
Mais Ousmane Dembélé, par exemple, ça a fait beaucoup de mal, son départ. Parce que c'est Ousmane Dembélé, il est l'un des rares qui justement permet un lien entre les générations. C'est-à-dire que même les anciens et tout, qui le regardent de manière un peu
lunaire,
comme un extraterrestre, mais ils l'aiment bien. Et eh bien, ça fait partie des choses très importantes dans une compétition.
Bah écoutez, messieurs, on verra ça samedi prochain dans On refait le match. On aura la liste de Didier Deschamps. On verra si vous aviez vu juste ou pas, si Dédé nous fait des petites surprises.
le foufou. Et puis on en parlera donc à partir de 18h30 la semaine prochaine. Merci Philippe, Xavier, Stéphane et Sébastien. Dans un instant, c'est RTL Foot avec Eric Silvestro et tout son orchestre. Vous suivrez à 21h le match entre Saint-Etienne et Lille. Je vous rappelle que tout à l'heure à 17h, Monaco a perdu sur sa pelouse face à Lens 2-0.